Merci. Alors, donc, j'excuse Didier Moreau, coincé à la gare pour réceptionner des personnes qui interviennent ce soir. Nous sommes peut-être sur la journée la plus chargée de l'année à l'espace Mendès France. Il y a une collision entre cette soirée sur les âges de la vie, ces 5 heures sur les âges de la vie, avec le forum énergie qui court sur 10 jours. Et donc moi-même, en réalité, j'étais derrière le mur en train de participer à un atelier et je suis venu en dépannage parce que Didier Moreau n'est pas là. Donc bienvenue à l'espace Mendès France pour ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue aux autres qui sont des fidèles habitués. Ces 5 heures, en fait, ça représente une réflexion qui date déjà d'un moment, d'un ensemble de réunions. Où l'idée était au départ peut-être de traiter, excusez-moi du terme, de vieillissement, puis après on a parlé de longévité, etc. Puis finalement est venue sur la table l'idée de travailler sur les âges de la vie, ce qui est parfait, et qui nous a amené pour certains à mener des réflexions. Et ce que je disais en aparté tout à l'heure, c'est que du coup, suite à la réflexion qu'on avait menée ensemble, je me suis mis à travailler sur les problèmes de longévité et que je donne quelques conférences de temps en temps sur la longévité. Conférence qui se rallonge parce qu'il y a de plus en plus de choses à dire sur la longévité en fonction des découvertes. Et donc, je suis avec grand enthousiasme tout ce qui se fait autour des cellules souches. En tout cas, cette soirée sera, à mon avis, très intéressante. Sylvain Lallemand, je crois, l'a préparée avec beaucoup de professionnalisme. Il a eu des contacts avec tous les intervenants, donc je ne vais pas être très long. Nous allons nous croiser, nous revoir, puis, et vous allez sûrement croiser des gens lors de la pause. Donc en principe, on est parti sur une session qui devrait durer jusqu'à 22 heures et peut-être un peu plus. Je souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui viennent rejoindre cette assemblée. N'oubliez pas aussi quelques recommandations, que tout est enregistré. Donc de parler toujours avec un micro, notamment si vous intervenez, posez des questions. C'est important pour qu'ensuite nous puissions diffuser vos interventions, vos questions. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Sylvain, merci beaucoup pour cette animation. Et puis je vais te passer tout de suite la parole.
Bien, merci Yves pour ce passage de relais et pour ces premières explications sur le pourquoi de cette affluence de qualité, mais quantitativement bien en deçà de ce qu'on avait escompté. Ne nous voilons pas la face. Ça fait des mois que nous travaillons sur ce projet avec Anne Bonnefoy, avec, je ne sais pas, professionnalisme peut-être, mais en tout cas enthousiasme, parce que le sujet est passionnant. Et le collectif d'associations qui est à l'origine de ce projet, que je ne mentionnerai pas dans le détail, puisque vous avez leur logo respectif, nous a communiqué comment leur enthousiasme. Alors, un peu désolé pour les intervenants de très grande qualité, je le dis en toute simplicité, qui ont bien voulu faire le déplacement de différents coins de la France, malgré des contraintes de temps extrêmement fortes sur leur agenda respectif. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont des communications téléphoniques à passer pendant l'intervention, n'est-ce pas, Marie-Françoise Fuchs? Voilà, alors en direct, Marie-Françoise Fuchs, que je présenterai plus en détail. Et un certain nombre d'intervenants devront reprendre le train assez tôt parce qu'ils ont d'autres engagements. Mais merci à eux, je pense à Hervé Lebras qui doit partir à Rennes, à Lebras. Oui, j'avais promis à notre bretonne préférée, Anne Bonnefoy, de le bien prononcer votre nom. Donc Hervé Lebras. Et merci aussi à Claudine Attia-Donfu qui doit partir, elle, alors quel chic, hein, en Chine. Eh bien, elle a fait le déplacement, le crochet par Poitiers pour prendre un train très tôt, un avion. Oui, parce que ce n'est pas la Chine sur Seine, hein, c'est la Chine, la vraie, etc. Donc, eh bien, on va tâcher quand même de faire au mieux parce qu'il va y avoir une trace de tout ça. Et croyez-nous, on va faire le maximum pour diffuser vos analyses, les valoriser. On en a déjà touché un mot avec le représentant d'une des associations pour que ceux qui n'ont pas pu venir peuvent prendre connaissance des débats et de vos interventions respectives. Je ne vais pas décrire le programme dans le détail, ça a été très bien fait, je peux le dire, puisque ce n'est pas moi qui l'ai mis en scène, qui l'ai maquetté. Je vais simplement donner le mode d'emploi, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va solliciter Hervé Lebras et puis Éric de Chavannes, que je présenterai plus en détail hein, au moment de leur intervention respective. On les a sollicités pour qu'ils nous aident à comprendre quels sont les facteurs qui ont pesé sur, je dis ça avec mes mots, déstructurer un peu les rapports entre les âges, les catégories qu'on utilise, enfance, jeunesse, adulte, vieillesse. On voit que tout ça se brouille. Ils vont essayer de nous aider à comprendre pourquoi justement ça se brouille et quels sont les facteurs explicatifs. On va se tourner ensuite vers Claudine Attia-Donfu avant qu'elle ne parte vers la Chine, et Guillaume Maché, que je présenterai aussi plus en détail, pour qu'ils nous disent, livrent leurs réflexions respectives sur de nouvelles catégories qui ont émergé justement pour essayer, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, de saisir ces nouvelles formes d'âge, ces âges en transition que nous vivons entre les âges que nous avons tous en tête. Nous nous tournons aussi ensuite vers Anne-Marie Guimard, que je remercie chaleureusement pour sa patience et parce que pour sa contribution qui nous sera essentielle, parce que bien évidemment, à un moment donné, on va devoir se tourner vers les pouvoirs publics pour savoir comment ils font pour faire face à ces défis. Et Anne-Marie Guimard, j'en dis pas plus, elle le dira autrement mieux que moi, va nous expliquer qu'en fait, les pouvoirs publics sont d'autant plus embarrassés qu'ils sont un peu à l'origine hein, de la difficulté que nous avons à saisir les individus dans leur complexité et dans leur évolution, en montrant combien les catégories d'âge ont forgé les politiques sociales menée par les politiques publiques. Elle ne nous quittera pas sans formuler, bien heureusement, des préconisations. Ensuite, on aura trois intervenants. Merci à Gisèle Bessac, merci à Marie-Françoise Fuchs et puis merci à Marion Tillius qui viendront pour nous donner des exemples d'initiatives destinées à prendre en considération la nécessité pour des personnes âgés notamment, de pouvoir mieux vivre l'espace public, mieux vivre avec les autres générations, je n'en dis pas plus. Et enfin, nous aurons une restitution de quelqu'un qui aurait pu tout aussi bien intervenir en tant que tel, parce qu'elle est spécialiste de ces questions-là. Elle a été à l'origine de colloques, de réflexions, de programmes de prospectives, mais elle a accepté de jouer quand même le rôle de grand témoin, qu'elle en soit remercier. J'ai nommé bien évidemment Edith Ergon, prospectiviste. Aucun rapport, je tiens à le préciser, entre elle, ce qu'elle va nous apporter, et puis ce qui est mentionné sur la fiche. Hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est on va tout sauf se vacciner contre Edith. Au contraire, on va écouter, faire notre miel de ce qu'elle nous dira au terme de ces 5 heures. Trêve de présentation, j'invite Hervé Lebras à prendre la place, merci à Yves, pour nous aider à comprendre quels sont les facteurs qui ont pesé sur la transformation des âges. Hervé Lebras est-il besoin de le préciser, vous êtes démographe. Mais un démographe, pas comme les autres, vous n'êtes pas focalisé uniquement sur les statistiques, vous êtes aussi un historien dans l'âme, vous articulez la démographie à l'histoire sociale et vous allez nous montrer dans quelle mesure l'allongement de l'espérance de vie, qui est une très bonne nouvelle, a pesé sur les relations entre les âges et la place des personnes dites âgées dans la société. Non sans, et j'arrêterai là dans la présentation, Hervé Lebras, non sans creuser, renforcer des inégalités entre ceux qu'à ce stade on va ranger parmi la catégorie des jeunes et puis ceux qui ont pu bénéficier pleinement du système de retraite. J'en dis pas plus. Vous disposez d'une bonne vingtaine de minutes, d'une trentaine de minutes au grand maximum pour nous livrer votre analyse.
Bien, merci Sylvain Allemand et merci aux puissances invitantes d'avoir pensé à me demander d'intervenir. Peut-être pour un tout petit peu corriger ce que vous avez dit, Sylvain Allemand, il était question que je parle un peu plus généralement des âges, donc je ne privilégierai pas l'aspect vieillissement et l'aspect vieillesse. Et pour commencer, je vais vous lire un texte que certains d'entre vous reconnaîtront, peut-être même tous d'ailleurs. C'est un monologue de Jacques, et il dit la chose suivante. « Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. C'est un drame en sept âges. D'abord le tout petit, piaulant et bavant au bras de sa nourrice, puis l'écolier qui pleurniche avec son cartable et son teint bien lavé qu'il n'a que le matin et s'en va lambinant comme un colimaçon du côté de l'école. Et puis c'est l'amoureux au long soupir de forge et sa balade triste en l'honneur des sourcils parfaits de sa maîtresse. Et puis le soldat, tout couvert de jurons et de poils comme une panthère querelleur, poursuivant cette bulle d'air qu'on nomme la gloire. Il veille, l'arme au pied, sur sa réputation, et jusque sous la gueule en flamme du canon. Puis le juge, entouré de sa panse fourrée d'un bon chapon, œil dur et barbe formaliste, plein de sages dictons, d'exemples familiers, ainsi joue-t-il son rôle. Le sixième âge porte un maigre pantalon, d'où sortent des pantoufles, les lunettes au nez, le bissac au côté, les hauts de choses qu'il avait dans sa jeunesse. Avec soin conservé, sont trop larges d'un monde pour ses mollets ratatinés. Et sa voix, qui j'ai dit était forte et virile, revenant en fausset de l'enfance, module un son siffleur. Et voici la scène finale qui met un terme au cours de cette étrange histoire. Il redevient enfant, l'enfant qui vient de naître, sans mémoire, sans dents, sans yeux, sans goût, sans rien. De qui est ce texte ? Vous pensez que c'est le texte, si je l'avais lu autrement, la première phrase aurait été « World is a stage ». Et c'est Shakespeare. Oui, c'est le monologue de Jacques dans « Comme il vous plaira ». Et c'est un monologue qui est caractéristique de cette époque et d'une beaucoup plus longue tradition où on distinguait très clairement, non pas quelques âges, mais vous le voyez, sept âges de la vie. Et cette tradition est très ancienne, elle remonte Shakespeare qui était en partie, comme d'ailleurs une théâtre élisabéthain, sous l'influence de l'hermétisme ou de l'occultisme anglais, a repris des traditions qui ont été ravivées à la Renaissance, et qui étaient des traditions qui divisaient en classes d'âge très finement et qui remontent très loin dans l'Antiquité. Rassurez-vous, je ne vous ennuierai pas avec trop de citations. Mais voilà une autre citation qui est beaucoup plus ancienne et qui a font servi de matrice à la suite, bien qu'elle soit un peu différente, et je reviendrai sur les différences. C'est une citation qui est très fréquente dans l'Antiquité et qu'on appelle le poème de Solon. Elle est attribuée donc au grand réformateur Solon. Et voilà ce que dit Solon. Il dit un garçon, avant de devenir homme, quand il est encore enfant, reçoit et perd sa rangée de dents durant les sept premières années. Lorsque Dieu ferme la seconde période de 7 ans, il commence à manifester les signes de la masculinité. Au cours de la troisième période, une barbe drue apparaît, bien que les épaules n'aient pas encore atteint toute leur envergure, ni l'efflorescence juvénile déclinée. Dans la quatrième période de 7 ans, chaque homme atteint l'apogée de sa force physique. À la cinquième période, il est temps pour l'homme de penser au mariage et aux enfants pour se défendre contre l'avenir. Dans la sixième période, les expériences de tout genre amènent l'esprit à la perfection et apaisent les tentations violentes de la jeunesse. Dans la septième septaine, l'homme est à son apogée pour l'esprit et l'expression, ainsi que dans la huitième, ce qui fait 14 ans. Dans la neuvième période, malgré ses forces subsistantes, l'homme devient plus faible tant pour la sagesse que pour la parole et ne parvient plus à ses buts. Si un homme complète sa dixième période, le destin mortel qui s'abat sur lui n'est plus en avance. Donc vous voyez que là, il y a plusieurs différences. Il y a des périodes de 7 ans, où vous l'avez vu une fois, 2 fois 7 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les périodes climactériques, et ça a une influence très importante dans toute l'Antiquité. D'ailleurs, un certain nombre de restes subsistent chez nous. L'âge de raison à 7 ans, longtemps, la majorité a été à 21 ans. Et le fait qu'on s'arrête à la dixième période, on la retrouve dans un texte biblique, le psaume de David, où il dit 70 ans, l'âge auquel l'homme peut mourir. Donc là, il y a une très longue tradition, et l'autre part de cette tradition, qui est illustrée dans le texte de Solon, c'est que les coupures, le moment où on passait d'un âge à l'autre, avaient un sens très fort, et à la Renaissance, ça sera considérés comme des âges dangereux, les âges climactériques, parce qu'on change d'un régime à l'autre. Alors bien sûr, le chiffre 7 est relatif aux 7 planètes, et le fait que dans le poème de Shakespeare, on retombe en enfance, c'est le cycle complet, c'est-à-dire qu'on repasse de la planète la plus basse, la plus haute, Saturne, à la planète la plus basse, qui pour eux, à l'époque, était la Lune. Donc il y a une très grande cohérence des âges de la vie. Ceci dit, vous voyez peut-être deux choses. Vous voyez que, dans les termes de Solon, les âges correspondent à des états physiques de l'individu. Alors que déjà, dans le poème de Shakespeare, ils correspondent plus à des états sociaux. Et effectivement, à l'époque de Shakespeare, déjà, par exemple, l'âge au mariage s'était désolidarisé de l'âge, notamment pour les femmes, aux premières ovulations ou aux premières règles. Il y avait déjà un retard de l'âge au mariage non négligeable qui a été bien étudié. En revanche, les âges restaient encore assez appuyés sur les métiers. Alors, cette tradition est encore plus ancienne, et ça sera un dernier texte tout petit, et qui cette fois-ci n'est pas d'un grand auteur, mais d'un petit travail que j'avais fait pour la revue L'Homme, qui est une des grandes revues d'anthropologie en France, et on m'avait demandé de regarder justement, d'un point de vue historique, mais aussi anthropologique, les classes d'âge, et j'étais tombé à l'époque sur une très grosse littérature et très intéressante sur les populations traditionnelles de l'Afrique, et même en dehors d'Afrique, mais surtout d'Afrique et d'Afrique de l'Est, qui utilisent des systèmes de classes d'âge assez rigoureux. Par exemple, un cas beaucoup étudié, celui de cette population du Kenya, les Maasai, qui ont un système en 4 classes d'âge. Les jeunes passent dans la première classe par une initiation à la fin de leur adolescence, autour de 15 ans, puis ils vont être des guerriers pendant une quinzaine d'années. Ensuite, ils vont passer à la classe d'âge suivante, au cours de laquelle ils se marient et développent leur troupeau et construisent leur famille pendant une quinzaine d'années. Puis ils deviennent, pendant les 15 années suivantes, donc la troisième classe d'âge, des décideurs politiques, entre à peu près 45 et 60 ans. Et dans la dernière période, ils ont des fonctions rituelles, ils perdent des fonctions de pouvoir après 60 ans. Donc là, on a à la fois les éléments de la vie biologique et les éléments de la vie sociale qui sont encadrés par ces 4 âges. Ceci dit, et beaucoup d'anthropologues, par exemple Spencer, ont insisté sur la difficulté de ce système, parce que le passage d'une classe d'âge se fait en bloc. Donc vous avez des gens à l'intérieur d'une même classe d'âge qui ont 15 années de différence, ce qui est très vite rend la gestion de ce système délicate. Alors d'autres populations, les Oromo par exemple d'Éthiopie, ont des systèmes à 8 classes d'âge ou 9 classes d'âge, mais d'une certaine manière ces systèmes se sont révélés relativement fragiles, même s'ils ont perduré jusqu'à maintenant. Et un parallèle intéressant pour terminer, pour faire le lien avec Solon sur ce point-là, est que Marcel d'Étienne, l'historien de la Grèce ancienne, a écrit un petit livre qui s'appelle « Comparer l'incomparable », dans lequel il a rapproché justement le système des classes d'âge des Maasai, peut-être ou des Djiés, enfin d'une population d'Afrique de l'Est, avec le système athénien, en montrant qu'il restait des traces dans le système athénien de ce système en classe d'âge, et qui est un système, vous le noterez aussi, démocratique. Vous n'avez pas justement un chef, vous avez une classe d'âge et on passe à tour de rôle par les différents états, celui de producteur, celui de chef, celui de prêtre. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une très grande ancienneté quand on aborde cette question, et qu'au fond, c'est plutôt le délitement de ce système auquel on a assisté au cours du temps. Et ce délitement, un de ses derniers stades a été que le système des classes d'âge s'est mis à correspondre au système de l'activité, c'est-à-dire les inactifs dans leur jeunesse, les actifs dans leur âge moyen, jusqu'à l'âge mûr, et puis la vieillesse. Et même ce système, et c'est ce que je vais vous montrer sur deux premiers exemples, un premier exemple, mais il sera en deux images. Ce système a été profondément modifié au cours des 60-70 dernières années. Et ça l'état dans lequel il est maintenant remonte déjà à une quinzaine d'années. Ce que je vous mets ici, cette courbe, ça vous représente la partie rouge ou rose, c'est recouvre les taux d'activité des hommes au recensement de 1936 et par classe d'âge, justement. Vous voyez que dès l'âge de 15 ans, vous avez plus de 50%. Quand ça monte, plus de 50% des hommes étaient actifs à cette époque. Et voyez que cette activité dure très longtemps. Elle commence légèrement à baisser autour de 60 ans. Mais vous voyez que pour retomber au-dessous de 50% d'actifs, il faut atteindre à cette époque, en 36, plus de 70 ans. On l'a oublié. Et encore, moins de personnes, bien sûr, survivaient à cet âge. Mais parmi ceux qui survivaient, la moitié était encore actif au moins à 70 ans. Et regardez, en 2007, la même courbe. Là, vous voyez que, bien sûr, les études se sont allongées, donc on a une partie non négligeable de la jeunesse qui maintenant n'est plus en activité mais en études. Mais ce qu'on oublie, c'est la seconde partie, c'est que l'âge auquel 50% de la population masculine devient inactive a reculé de 15 années, alors que dans le même temps, on a parlé d'espérance de vie, dans le même temps, l'espérance de vie à, par exemple, l'espérance de vie à 65 ans est passée, l'espérance de vie à 65 ans est restée absolument constante, enfin des toutes petites fluctuations près, de 1806 à 1945. Je ne vais pas vous assommer de graphiques, mais j'en ai publié plusieurs fois le graphique. Et elle n'a commencé à croître qu'en 45-46, avec la découverte des antibiotiques. Puis très lentement, elle a augmenté celle d'espérance de vie à 65 ans, c'est-à-dire le nombre moyen d'années qu'on aura à vivre à partir de 65 ans. Et assez brusquement, au milieu des années 70, donc en fait, au moment où se déclenche la première crise, elle se met à croître rapidement et actuellement, l'espérance de vie des hommes à 65 ans est de 18 ans et demi. Donc, elle a presque doublé entre 1945 et maintenant. Et en doublant, malgré cela, vous voyez que l'espérance de sortie d'activité, si on peut dire, a raccourci de 15 années. Donc, les âges de la vie en ont été bouleversés, non seulement, j'avais signalé déjà pour le texte de Shakespeare, ils ne correspondaient plus vraiment à des réalités de type biologique, mais ils ne correspondent plus non plus à des réalités de type social. Alors je pense qu'une fonction importante des âges, que ce soit justement dans ces populations d'Afrique de l'Est, ou que ce soit dans des populations de l'époque antique, et même d'une partie du Moyen-Âge, l'âge était un très bon marqueur pour harmoniser des fonctions sociales et des fonctions biologiques. Il ne l'est plus du tout. Et du coup, un certain trouble s'instaure avec, on voit apparaître, alors d'autres en parleront beaucoup mieux que moi, mais on voit apparaître des catégories comme adolescence, post-adolescence, senior, quatrième âge, et dont le contenu est assez indéfini et qui traduit plutôt cette perplexité devant la difficulté de saisir les phénomènes tant au niveau biologique qu'au niveau social. Alors, en même temps, et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans une seconde partie, c'est que les classes d'âge, d'une certaine manière, disparaissaient dans le temps, mais elles apparaissent dans la France actuelle, dans l'espace. Et je vais vous montrer ça avec quelques cartes. C'est des cartes qui sont faites... j'ai des données au niveau des communes, donc je regarde où vivent les personnes... vous allez voir d'abord de 20 à 24 ans dans les 36 000 communes françaises, quelle est la proportion de jeunes de 20 à 24 ans, et puis on verra d'autres classes d'âge, et vous allez voir qu'il y a une territorialisation importante de ces classes d'âge, et croissante d'ailleurs. Alors pour le voir dans un premier temps, voilà, est-ce qu'on voit bien? Alors normalement vous devriez me dire, on ne voit pratiquement rien, hein. Ça ressemble un peu à une tranche de pâté de foie. Hein, vous avez les 36 000 communes. Vous voyez que alors, le plus bleu, c'est 2%, c'est-à-dire il y a très peu de jeunes de 20 à 24 ans. Et le rouge-brun, c'est 10% et plus. Donc, il y a beaucoup de jeunes de 20 à 24 ans. Vous ne voyez rien parce qu'une grosse commune en termes d'habitants est toute petite. Si vous regardez Poitiers, vous l'apercevrez à peine sur la carte. Et vous verriez que Poitiers... est marron foncé, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes, mais comme on ne le voit pas, pour faire apparaître ce qu'il y a dans la carte, on utilise des techniques de lissage qui sont l'analogue de celles qu'on utilise quand on fait des... Quand on veut rendre intelligibles des courbes boursières ou économiques et on extrait un trend, on fait passer une moyenne. Ben là, de la même manière, on fait passer une moyenne, c'est-à-dire on prend tout ce qui est autour d'un point donné dans l'espace et on fait la moyenne de ce qui est autour en comptant de moins en moins ce qui est un peu plus loin. Et de cette façon-là, vous voyez que cette même carte devient comme cela. Donc elle devient parfaitement lisible et on voit apparaître deux choses très importantes. On voit apparaître que les jeunes de 20 à 24 ans vivent dans les grandes villes, et pas simplement dans les grandes villes universitaires, plus non, voilà. Dans les grandes villes universitaires, surtout celles qui sont vraiment des universités anciennes. Regardez Rennes par rapport à Nantes, ou bien regardez Aix par rapport à Marseille, ou bien Montpellier par rapport à Nîmes. J'espère que sur les cartes, vous connaissez encore un peu votre géographie. Je ne peux pas le montrer, sinon j'aurais si j'avais un bâton de maître d'école, je montrerais ça sur la carte. Et voyez que même de plus petites villes, regardez par exemple Bourges, Châteauroux, regardez Angoulême, des villes qui n'ont pas une forte vocation universitaire, ou dont elle est très récente, les jeunes de 20 à 24 ans, ils sont beaucoup plus nombreux qu'alentour. Autrement dit, le centre, le cœur des villes, est devenu une sorte de lieu de passage obligatoire pour la jeunesse. C'est une initiation à la vie pour la jeunesse que de passer un certain temps, non pas à proximité, mais au centre d'une grande ville. Alors, il y a énormément de problèmes de logement, particulièrement dans la région parisienne, mais ça se reflète y compris dans le parc immobilier, puisque dans Paris intramuros, plus de 50% des logements sont des studios ou des logements d'une pièce, et donc assez adaptés à cette clientèle de jeunes. C'est aussi le développement des colocations, enfin énormément de phénomènes qui sont vraiment devenus un lieu de passage. Alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe après 24 ans? Mais regardez la population âgée de 30 à 49 ans. C'est dans les poèmes que je vous ai lus, de Solon ou de Shakespeare, c'est le moment, et aussi chez les Maasai, c'est le moment où on construit sa famille. Et regardez, on s'écarte du centre-ville. Vous voyez que les centres-villes sont repassés du côté du bleu, c'est-à-dire que la fréquence des personnes de 30 à 49 ans est nettement plus faible qu'ailleurs. En revanche, une première couronne, et même une première couronne très large, dans laquelle séjourne maintenant habitent ces personnes. J'ai agrandi, on voit un tout petit peu Poitiers en bas, mais j'avais agrandi pour des Bretons. Hein.
Oui, je serai demain.
Bon, et pour Rennes, vous voyez, bien que je ne sois pas de Rennes, et on voit bien, ou assez bien, c'est pour ça que j'ai mis ces cercles, on voit que la partie n'est pas l'immédiate première banlieue, c'est ce qu'on appelle le périurbain. Donc le passage, disons, suivant, la classe d'âge, le moment... où on habite ensuite, c'est 30 à 49 ans. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Juste une question, 49 ans, parce que c'est 7 fois 7.
J'aurais pu choisir. Voilà, c'est 49 ans est une grande climactérique. On distinguait, particulièrement d'ailleurs à la Renaissance, les âges très dangereux, c'était les grandes climactériques. 49 ans, 81 ans et 63 ans. Je vous le dis. Et c'était à ce moment-là, maintenant, il y a un très grand livre d'un des plus grands érudits de la Renaissance, Ficino, qu'on appelle Marcille Ficin en France, qui s'appelle Les Trois Livres de Vie. Et Ficin est un érudit formidable. Il a fait revenir les textes de Plotin, découvrir Plotin. Il a fait revenir les derniers dialogues de Platon, parce que ça se passait au moment où les Turcs ont pris Constantinople. Il les a traduits. Et en même temps, dans ces Trois Livres de la Vie, c'est une suite de recettes, justement, pour surmonter les âges climactériques. Ou du moins, une grande partie du livre, c'est comment faire au moment où l'âge climactérique se présente, et aussi au moment où les alignements de planètes sont mauvais astrologiquement. Et à ce moment-là, ils donnent des recettes de magie blanche, c'est-à-dire qu'on a des moyens de faire que cet âge-là soit rendu, on puisse le franchir, et puis que les planètes ne se croisent pas exactement là où elles doivent se croiser. Alors, je vous renvoie au livre si vous vous intéressez à ces moyens de vivre de longévité, comme disait le président de ce centre, mais ça vous donne un état d'esprit, l'importance qu'avaient ces âges climactériques. Alors maintenant, revenons de 49 ans. Même Leibniz, quand Leibniz fait un calcul d'assurance-vie, prend comme dernier âge de la vie 81 ans. Donc vous voyez que jusqu'au début du XVIIIe siècle, cette idée climactérique était dans l'air. Et d'ailleurs, ça nous emmènerait très loin, mais Leibniz a été au centre du basculement des âges climactériques vers la conception actuelle des âges en termes de mortalité, qui est le risque ou quotient de mortalité. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Donc là, revenons à nos moutons, oui, si on peut dire. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'il y a une territorialisation et nettement, vous voyez que c'est dans ce périurbain. Et dans ce périurbain, bien sûr, ça ne va pas être simplement les personnes de 30 à 49 ans. Vous voyez qu'il y a encore 14 ans, là aussi.
On a relevé.
Je ne masque pas mon jeu et climactérique. Et vous voyez, par exemple, autour de Paris, c'est particulièrement marqué. Les jeunes, on dirait maintenant préadolescents, sont en périurbain. Ils sont les plus fréquents aux frontières même. Ils ne sont même pas dans l'Île-de-France. Ils sont aux frontières. Et regardez pour les villes aussi autour de, mettons, les villes de l'Ouest. C'est très net. Et un peu partout, il y a des questions de contraste. Parce que là, ben quand vous vieillissez, là, vous commencez à quitter les villes. Hein. Là, c'est la pré-retraite. J'ai pris 50 à 59 ans. Comme vous avez vu qu'on quitte le travail, l'activité assez tôt. Il y a des régimes spéciaux, etc. Et là, on se dirige vers les côtes. Regardez un peu comme on se met sur les côtes, la fréquence des 50-59 ans. On se met aussi un peu à la campagne. Puis il y en a un peu plus aussi dans des villes. Mais vous voyez que désormais, les villes sont désertées. Et bon, même chose, ce nombre moyen de personnes, je ne vais pas vous ennuyer, je pense que... Et maintenant, les presque derniers, la population de 60 à 74 ans, ben, vous voyez que c'est l'inverse, elle est d'autant plus fréquente que l'on est loin des grandes villes, elle est à la campagne. Alors vous voyez aussi, j'en ai pas parlé, ça nous emmènerait plus loin, mais qu'il reste une régionalisation, c'est-à-dire il reste un sud-ouest qui longtemps a été moins fécond, où il y a eu peu de migration, qui est donc... plus vieilli que le reste de la France et nettement plus vieilli. Mais cette distinction régionale est en train de s'effacer devant ce qui devient la distinction majeure, d'ailleurs pour un grand nombre de phénomènes, y compris politiques d'ailleurs, qui est une distinction entre le centre des grandes villes et leur première périphérie d'une part, et puis tout le reste du territoire d'autre part, qui est un thème sur lequel insiste beaucoup un très bon géographe, Jacques Lévy, qui maintenant, vous connaissez, hein, qui maintenant... dirige la Polytechnique de Lausanne, le département d'urbanisme et de géographie. Et dernier point sur cette petite chose spatiale, c'est qu'un mouvement, alors là c'est plus fin, mais je vous montre juste rapidement la carte pour vous expliquer ce qui est derrière, c'est que passé un certain âge, passé disons 70-75 ans, il y a une tendance des personnes âgées à... ça dépend de leurs revenus, à retourner vers les villes, et vous voyez, plutôt vers d'assez petites villes, mais c'est au fond des villes qui sont dotées d'un équipement hospitalier, médical important. Donc c'est une sorte de dernier stade, et après tout, comme dans le texte de Shakespeare, ben, on revient au centre-ville que l'on avait quitté, que l'on avait pratiqué quand on avait entre 20 et 24 ans. Juste pour terminer, si vous me donnez un instant, je voudrais vous montrer que cette géographie, il se trouve que cette géographie des âges, donc cette spatialité des âges qui s'installe dans notre pays et qui s'est installée d'ailleurs dans la plupart des pays développés, elle est aussi corrélée, mais d'une façon bizarre qu'on verra tout à la fin, avec la hiérarchie des fonctions sociales. C'est un petit résumé qui vous montrait comment on, selon l'âge, on se place dans l'espace. Et je vais juste vous montrer rapidement, parce que c'est moins le sujet, mais c'est articulé à ce que je viens de vous dire. Si vous regardez, alors toujours même chose, par lissage, si vous regardez où sont les cadres et professions libérales, vous voyez que c'est au fond, comme, bien que ça ne soit pas eux, malheureusement d'ailleurs, sans doute, c'est comme pour les jeunes de 20 à 24 ans. Ils sont, eux aussi, dans les grandes villes. Et de mon beaucoup moins nombreux, même dans de plus petites villes qui ont des fonctions, par exemple, préfectorales. Puis si vous regardez par exemple sur Paris, alors le cercle au centre, c'est la petite couronne, Paris, puis les trois départements de petite couronne. On voit bien qu'ils sont sur l'ouest aussi, naturellement, mais ils sont vraiment concentrés sur Paris. Puis un tout petit bout de la petite couronne, ben c'est le 93, qui est bleu clair. Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux, mais pas beaucoup moins nombreux. Les moins nombreux, vraiment, c'est les bleus foncés. Et regardez les professions intermédiaires, donc, vous voyez que c'est la même chose, mais là, elles sont plus fréquemment dans des petites villes et plus étalées, et on le voit bien quand on regarde autour de Paris, elles ne sont plus au centre, elles sont autour. Vous voyez que Ça a comme explosé, si on peut dire. Il y a, au centre, vous aviez les professions libérales et catégories cadres supérieurs. Et puis, en couronne suivante, ça se recouvre en partie, mais en partie seulement, la couronne suivante, c'est les professions intermédiaires. Et puis, si vous allez un peu plus loin, ben, les employés, c'est déjà, ils ne sont plus urbains. Ils sont, ils le restent dans les petites villes. Vous voyez, je ne voudrais pas faire de politique, mais par exemple en Corrèze, à Tulle, ou bien... Mais ou bien allons à Carcassonne, ou bien allons à Gap, tiens, pour faire mes plaisirs à M. Bianco, je crois. Et les ouvriers, on en a, on va là, les ouvriers, la carte est fascinante, si vous voulez, parce qu'elle est d'abord nord-sud, ils sont au nord et pas au sud, mais surtout, ils sont à la campagne désormais. C'est une transformation extraordinaire. C'est, les ouvriers étaient où dans la ville, ou bien à sa proximité immédiate, dans les premiers faubourgs, où étaient les usines aussi. Et là, c'est terminé. Vous voyez que la règle, c'est plus on est loin d'une grande ville, plus la proportion d'ouvriers est forte. Regardez où elle est le plus forte. Eh bien, ça va être, par exemple, dans le Choletais, à la frontière de la Vendée et des Deux-Sèvres. Ça va être très souvent sur des frontières de départements. Donc, c'est vraiment sur les lieux les plus éloignés de la centralité administrative, culturelle, etc. Et regardez où sont les artisans commerçants. C'est presque la même chose, mais au sud. Et si vous mettez les deux ensemble, vous voyez cette coupure de la France, et vous voyez qu'en mettant les deux ouvriers et artisans ensemble, vous obtenez une carte qui est exactement l'inverse spatialement de la carte des professions libérales, des cadres supérieurs, et en partie des professions intermédiaire et qui est presque plus rurale que la carte des agriculteurs. Désormais, une partie des agriculteurs, plus de 30%, vit dans les villes. Et parce que les agriculteurs ont changé, ils ont des plus grosses exploitations, ils ont des enfants, et il vaut mieux être en ville pour l'éducation des enfants, etc., ou à proximité immédiate. Donc on arrive à ce paradoxe que le matin, les ouvriers qui sont à la campagne se dirigent vers la ville en voiture, et les paysans qui sont en ville se dirigent vers la campagne en voiture. Hervé, comme ils sont moins nombreux, c'est fini.
Alors, non, justement,
juste un dernier mot peut-être.
Et après une question avant de
conclure. Et après, pour la conclusion, mais ça serait plus long, je vais juste indiquer l'esprit. Ça, c'est une carte des revenus. Vous voyez qu'elle a aussi une très forte relation avec ce que je vous ai montré. Mais sa relation avec l'âge est plus compliquée à établir, puisque quelque part, d'une certaine manière, elle dit que là où sont les ouvriers et les artisans, qui sont en principe plus pauvres que les autres catégories, c'est effectivement là où on paye le moins souvent l'impôt, parce qu'on n'a pas assez de revenus, et c'est là où le revenu est le plus faible. Vous voyez la carte qui est presque inverse, où on voit que c'est dans les villes, mais pas tout au centre des villes, où les jeunes, justement, sont là, et les jeunes ont très peu de revenus. Et donc, pour articuler les fonctions sociales, les fonctions d'âge, ça ne se passe pas, justement, comme avec les classes d'âge autrefois. C'est ça le point très important. Si vous ne laissez pas, comme dans le poème, comme chez les Maasai, ou même encore comme dans le poème de Solon, l'articulation est beaucoup plus compliquée, elle est difficile à comprendre, et il faut y ajouter un paramètre supplémentaire, dont d'autres parleront, mais le paramètre supplémentaire, et vous y avez fait allusion au début, c'est que les différences de revenus, et d'ailleurs tout, les différences de patrimoine, les différences de sûreté de l'emploi, enfin, de sécurité de l'emploi, tout s'est dégradé pour les jeunes par rapport aux personnes âgées. Vous savez qu'actuellement, le revenu moyen d'un retraité est supérieur au revenu moyen d'un actif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pauvres dans la population âgée, mais là où il y a beaucoup de pauvres, c'est dans la population jeune. Et regardez la transformation. En 77, vous voyez le salaire moyen par âge. Vous voyez qu'arrivé à 35, 40 ans, ben, ça y est, on plafonne. Actuellement, ce n'est plus du tout cela. La montée est continue. Donc, les jeunes sont d'autant plus bas par rapport à la moyenne. Hein, le critère de calage des courbes, c'est la moyenne, puisque c'est des salaires assez différents. Et ce dernier tableau, c'est ma dernière image, sur laquelle, justement, on mesure d'une autre manière l'ampleur de la différence qui s'est installée. C'est les taux de pauvreté, la proportion de jeunes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire au-dessous, leur revenu est inférieur à la moitié du revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu tel que la moitié des Français est un revenu plus faible que lui et la moitié un revenu plus fort que lui. C'est juste ce qui coupe. Et la moitié de ce revenu médian, ce qui est au-dessous, on considère, les économistes appellent ça, le seuil de pauvreté, et regarde la proportion de population, et voyez que les plus pauvres et de loin, ce sont les hommes comme femmes, ce sont les jeunes, 18 à 24 ans, et regardez ensuite comment ça évolue, voyez que les femmes sont un peu plus pauvres, c'est une carte que j'ai passée en vitesse, mais qui méritait réflexion, c'est parce qu'elles sont souvent mères de famille monoparentale. Le taux de pauvreté des mères de famille monoparentale, c'est 42% en France. Donc s'il y a vraiment une niche de pauvreté importante et un problème social important, c'est là qu'il se situe en termes de structure familiale. Et voyez qu'ensuite, ça baisse, regardez, pour les hommes, ils sont, on arrive de 55 à 64 ans et leur taux de pauvreté est vraiment faible. Il est encore plus faible à 65 à 74 ans, et le plus faible taux de pauvreté, c'est les hommes de plus de 75 ans. Donc, vous voyez que cet échelonnement, non seulement d'ailleurs, j'ai un nombre de données importants là-dessus, c'est la même chose pour le patrimoine, c'est la même chose pour énormément de données, pour la possession d'un logement qui est un élément important, on passe de moins de 20% bien sûr à 30 ans, à maintenant près de 80% de propriétaires de leur logement arrivés à 70 ans. Donc tout ça s'est cristallisé, ce qui fait qu'il faut utiliser cette différenciation pour articuler dans l'espace les deux types de cartes que je vous ai montrées, mais vous voyez que ça complique les choses et j'ai épuisé mon temps de parole et vous remercie de votre attention.
Mais on va avoir un échange avec la salle pour préciser un certain nombre de choses. En tout cas, merci. Je ne m'attendais pas autant le dire à ce que vous mettiez autant la focale sur la traduction spatiale de ces enjeux d'âge. Mais c'est précieux, effectivement. Ça nous évitera d'entrer dans des généralités. En fait, tout dépendra des contextes, des territoires, sans compter également les catégories sociales d'appartenance des personnes. J'ai relevé, j'étais aussi très intéressé par cette approche d'historien, de démographe et d'anthropologue comparatiste qui nous montre comment des systèmes d'âge ont été inventés dans des sociétés, comment ces systèmes d'âge ont été bousculés, notamment par l'allongement de l'espérance de l'âge de la vie, sur lesquels vous êtes passé très vite, mais sur lesquels on reviendra sans doute à travers d'autres interventions. Et enfin, j'ai compris pourquoi on parlait des personnes de 7 à 77 ans.
Exactement. Voilà, Tintin était, vous avez tout à fait raison, Tintin était un climactérologue.
On a quelques minutes pour échanger, demander des points d'éclaircissement, profitons-en. Alors il suffit de lever le bras et de prendre le micro pour inscrire vos interrogations dans la postérité, dans le marbre, si je puis dire. Monsieur.
Comme il n'y en a pas d'autres questions... En fait, c'est parce que c'est très difficile que vous ne tenez compte que des revenus et pas du patrimoine, alors que c'est un élément au moins aussi important, surtout quand on avance en âge.
Oui, d'ailleurs, je l'ai signalé, je ne voulais pas vous épuiser avec des tableaux et des graphiques, mais comme je l'ai signalé, j'ai les données concernant les patrimoines par classe d'âge. On a une bonne enquête de l'INSEE à ce sujet, et comme je l'ai signalé, ces patrimoines, bien sûr, s'accroissent avec l'âge, et disons, ils diminuent très légèrement, passé 70 ans, mais c'est une diminution faible. Arrivé dans la tranche d'âge 50-70 ans, ils sont trois fois supérieurs au patrimoine des gens qui ont 30 ans. Alors, il y a une accumulation, bien sûr, donc cela s'explique, mais je trouve que le fait sur les revenus est encore plus important parce que c'est les revenus, pas de la retraite simplement, mais c'est le revenu du travail et du capital. Or, les revenus du capital sont assez largement pour les personnes âgées. Et d'autre part, pour le logement, là aussi, non seulement on a les enquêtes logement de l'INSEE sont bien faites et on a la par âge, la proportion de propriétaires de logements sur chaque enquête, un graphique qui montre non seulement comment, bien sûr, on est de plus en plus propriétaire de son fréquemment propriétaire de son logement quand on est de plus en plus âgé, mais aussi comment ça a même bougé dans ces dernières années avec le fait que, par âge, à un âge donné, la proportion de propriétaires a diminué pour les personnes au-dessous de 50 ans et elle a augmenté pour les personnes au-dessus de 60 ans. Donc là, ça s'est quelque sorte renforcé et, si on peut dire, aggravé. Et effectivement, c'est très important parce que La possession, l'INSEE chiffre aussi quelle est la part du revenu qui part dans le logement selon le statut qu'on a dans le logement. Et la part pour un jeune, par exemple, est de l'ordre de 20 à 25% dans son budget, alors que pour un propriétaire âgé, c'est de l'ordre de 10%. Donc là, c'est encore plus fort, si vous voulez, que les graphiques sur le revenu que je vous ai, enfin sur les salaires que je vous ai montrés et sur les revenus que j'aurais pu aussi vous montrer. Donc là, on est en face d'un phénomène massif. J'insiste parce qu'on m'a demandé, la revue Les Temps Modernes, la revue créée par Sartre et Simone de Beauvoir, m'a demandé de faire un papier pour le 50e anniversaire de la publication du très beau livre de Simone de Beauvoir, La vieillesse. Et quand on ouvre ce livre, qui a sensibilisé à ce problème dont on parle maintenant, c'est devenu un lieu commun, la question du vieillissement, ça ne l'était pas vraiment. Or, et Simone de Beauvoir, dès la première page, a répétitivement dit « Vieillesse en France est synonyme de pauvreté ». Et quand j'ai fait le petit article dans Les Temps modernes, j'ai dit « Si Simone de Beauvoir avait à écrire maintenant ce livre, elle écrirait « Jeunesse est synonyme de pauvreté ».
Avant de donner la parole à Edith, juste une invite faite à, je ne sais plus comment on dit, l'envers du doyen. Qu'est-ce que l'inverse du doyen ? Toujours est-il qu'il y a au fond de la salle un jeune homme. Donc voilà, merci d'être avec nous. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à venir et à nous demander des éclaircissements. Hein. D'accord ?
Le Benjamin.
Le Benjamin, voilà. Bienvenue au Benjamin. Voilà, Edith.
Oui, moi je suis une groupie de ce que dit Le Bras. Donc, j'ai lu notamment le travail qui avait été fait sur la Bretagne pour les Côtes d'Armor et j'ai essayé d'intégrer ça dans deux perspectives, l'une sur les nouvelles ruralités avec l'INRA, l'autre sur plus longue la vie avec la FING. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de mal à faire travailler des collectivités territoriales avec cette idée d'une. Qu'on habite de manière un peu différenciée les territoires français. Donc il y a une vraie difficulté. Maintenant, ma question concerne le périurbain. Je considère que le périurbain est effectivement l'ennemi majeur du développement durable. Donc quand on essaye de travailler des stratégies que moi je reformule aujourd'hui en termes de comment créer une nouvelle alliance des villes et des campagnes, je suis frappée par ce que vous dites du périurbain où, pour moi, on avait des familles qui ont beaucoup d'enfants, donc qui sont à la recherche d'espace à un moment de leur vie. Je travaillais Courbevoie, c'est l'endroit où il y en a. Bon. Et les cadres. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer pour essayer de faire évoluer cette démographie du périurbain que vous différenciez entre les premières couronnes, deuxième couronne, etc.
Oui. Oui, non, d'ailleurs, il y a un beau travail de Jacques Lévy qui montre justement que si on travaille plus finement, je crois qu'il appelait ça la ceinture dorée, il y a un périurbain, ou du moins une banlieue déjà assez lointaine, qui est où les revenus sont les plus élevés.
Mais ça ne s'intéresse pas aux
ruralités. Non,
on peut. On ne va pas amorcer
on va pas entrer
oui, dans
mais,
ce détail.
Alors, sur le fait qu'il y ait. Souvent, on me pose des questions comme vous m'en posez, Edith, mais c'est aux hommes politiques aussi. Moi, je peux de répondre. Vous voyez, moi, très souvent, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, quelque part, j'ai mes idées de citoyen, mais je cherche à montrer des phénomènes tels que je peux les analyser, de montrer des tenants et des aboutissants. Ensuite, c'est quand même aux politiques de choisir. Et souvent, il se passe l'inverse, c'est-à-dire, je rencontre un politique, il me fait tout un topo sur le vieillissement, les dangers du vieillissement et tout ça, et il se tourne vers moi et il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui dis, mais c'est l'inverse, enfin, c'est moi qui peux vous dire si c'est dangereux, pas dangereux, tout ça, s'il y a tel risque qui s'entraîne ceci. Puis ensuite, vous prendrez des décisions en espérant que vous croirez ou que, éventuellement vous vérifierez. Mais vous voyez, il y a une sorte d'inversion. Un autre point, attendez, je vais répondre à un autre point de votre question qui est important. Et qui concerne non plus le politique, mais la politique plus généralement. Les collectivités locales sont assez rétives à ce type d'analyse, c'est aussi parce que les personnes âgées ont pris un poids très important, et les jeunes âgées dans les collectivités locales, parce qu'elles sont en très bonne santé, elles ont de l'argent, et elles ont du temps. Et c'est vraiment devenu en France une des assises de la politique locale, le groupe des, je dirais, 55 à 70 75 ans, alors que les jeunes, bougent. Si vous voulez, c'est pas intéressant pour le maire d'une petite commune rurale de s'intéresser aux jeunes. Ils seront partis, vous l'avez vu, vers la grande ville, puis ils iront ailleurs ensuite. Tandis que s'ils ont une personne de 60 ans qui vient de s'installer, ça sera pour un certain temps, elle va s'occuper des œuvres, ceci, cela. Et donc, je crois que c'est important. Et dernier point, et après ça, je cède la parole, mais dernier point, parce que il faut aussi ne pas négliger le fait sur le périurbain, quand vous faites, et vous savez que c'est un de mes travaux, de mes occupations, ou une de mes recherches, quand vous faites des cartes électorales fines, on s'aperçoit que c'est dans le périurbain que désormais que s'accumulent, si on peut dire, les votes extrémistes, aussi bien du Front National que des trotskistes. Je pourrais vous montrer là aussi des cartes où on voit très précisément que, proportion de voix pour le FN autour de Paris croît du centre jusqu'à 30-35 km, puis ensuite se stabilise et puis décroît. Donc il y a, par derrière, le périurbain pose aussi des problèmes, je pense, humains, pas simplement des problèmes d'environnement.
Oui. Ouais, voilà pour le périurbain. Guillaume Maché, et j'invite Éric de Chavannes à nous rejoindre à la tribune, et on fera comme ça transition avec. Mais restez avec nous, Hervé Lebras.
J'avais une question en lisant votre tableau. J'observe les classes d'âge que propose l'INSEE, décennie par décennie, à part la tranche 18-24. J'aurais aimé que vous m'expliquiez pourquoi cette construction-là. Est-ce que les démographes n'auraient pas intérêt à... Est-ce que vous le faites d'ailleurs, à redécouper autrement les âges? Parce que par rapport à ce que vous avez dit de Shakespeare ou de Solon, j'ai l'impression que l'INSEE est en recul.
Oui, non, vous avez raison, excellent. Mais on obtiendrait des évolutions relativement lissées. Il y a justement, ce sera un sujet qui sera certainement abordé par la suite, mais les coupures d'âge sont beaucoup moins nettes, sauf peut-être la coupure à 16 ans et encore. Par exemple, la coupure du passage à la retraite est très peu nette. Vous l'avez vu sur les taux d'activité, donc je crois pas qu'on gagnerait grand chose. Et à la limite, si j'avais une critique à faire à l'INSEE, ça serait presque l'inverse, voyez-vous. C'est-à-dire, je trouve ce tableau encore un peu compliqué. Je trouve que les âges à partir de 25 ans auraient sans doute pu être regroupés jusqu'à peut-être 45-54 ans, parce que c'est la partie marquante. Mais c'est vrai que si on veut travailler finement, on peut le faire. Hein, maintenant, vous savez que l'INSEE fournit ce qu'on appelle des fichiers détails assez souvent. On n'en a pas encore sur la pauvreté, mais on en aura bientôt. Et on peut à ce moment-là refaire tous les trucs qu'on veut. Je ne suis pas sûr qu'on gagne énormément à cela. Il faut savoir aussi que ces taux de pauvreté ne sont pas calculés, ce n'est pas personnel, on part du ménage. Hein, donc et dans le ménage, vous savez qu'on compte l'homme pour, ou la chef de ménage, comme on dit maintenant, pour 1. On va compter son conjoint pour, je crois que c'est 0,5 ou 0,7 selon les cas, c'est 0. Et puis ensuite, les enfants de plus de 13 ans pour, et ainsi de suite. Et donc, on désagrège le revenu d'un ménage de cette manière-là. Puis ensuite, regarde, donc, il faut savoir quand même que justement, dans une partie des 18-24 ans, vit dans un ménage. Hein.
Mais nous sommes d'accord, hein, faire redécouvrir Shakespeare aux statisticiens de l'INSEE, ça fera de mal à personne, hein, on est d'accord. Alors, restez avec nous, on va poursuivre. Il y a des questions dans la salle, ne soyez pas frustrés, parce que vous avez vu, non madame, vous avez vu qu'il y a plusieurs moments de débat, donc ne soyez pas frustrés, juste un peu de patience, mais je pense que là, le moment est venu d'entendre Éric Deschavannes. Alors, Éric Deschavannes, nous ne le connaissions pas personnellement avant d'organiser cette soirée, et nous ne regrettons pas de vous avoir aussi parmi nous, parce que nous avons découvert votre travail, le travail que vous avez mené avec votre collègue Pierre-Henri Tawalo, qui a débouché notamment sur le livre Philosophie des âges de la vie. Vous êtes enseignant-chercheur en philosophie à l'université Paris 4 Sorbonne, et pour vous donner la parole, juste une précision, c'est que vous nous expliquez dans ce livre de manière assez édifiante, passionnante, en convoquant peut-être pas Shakespeare, j'en ai pas le souvenir, mais Rousseau et d'autres auteurs de ce genre, pour nous montrer qu'en fait la déstructuration, la déhiérarchisation des âges, jeunesse, adulte, vieillesse, etc., était déjà inscrit, si j'ose dire, dans les gènes de la modernité, dans la mesure où elle a posé l'existence même des individus. J'espère ne pas avoir déformé l'hypothèse l'hypothèse qui parcourt ce livre, mais je vous laisse le soin de la préciser en une vingtaine de minutes et on embrayera, passez-moi l'expression, avec un débat avec la salle. Oui, une vingtaine de minutes pour un philosophe, c'est une mission impossible, mais pourtant il va le faire.
Somme surtout qu'il s'agit d'une mise en perspective historico-philosophique
tout à fait.
À l'échelle mondiale et de tous les temps.
Parfaitement. Donc...
Oui. Donc on va essayer, mais je ne vous promets pas que ce sera réussi.
Mais comptez sur moi pour vous rappeler.
Dans notre livre, nous donnons toute une série d'illustrations aussi relatives à la conception des âges selon les différentes époques. Et alors les textes que vous avez cités ou les exemples que vous avez pris en évoquant par exemple les systèmes africains, cela ressortit selon notre classification historique aux deux premières époques de l'histoire des âges que sont l'époque de la tradition, ce serait plutôt les systèmes africains, ou l'époque de la cosmologie des Grecs, c'est-à-dire une conception en fait naturaliste des âges, où en fait le cycle de vie est conçu comme un microcosme qui reflète le macrocosme, c'est-à-dire le cosmos, lui-même structuré rationnellement, structuré mathématiquement même, d'où cet usage des nombres, qui nous paraît évidemment un peu exotique aujourd'hui, qui consiste à fétichiser en quelque sorte le nombre et voir dans la régularité mathématique en quelque sorte quelque chose qui, dans le cycle de vie, reflète l'ordre même du cosmos. Donc c'est ça qui a... Évidemment, nous sommes très loin de cette conception-là des âges. Alors je ne vais pas refaire toute l'histoire ou retracer toute l'histoire. Je vais simplement évoquer quelques bouleversements dans les âges de la vie. Très sommairement, évidemment, quand on prend de la hauteur, on voit les choses de très loin, donc on n'est pas très précis. Mais donc, je vais évoquer les bouleversements qui sont les plus fréquemment évoqués, parmi concernant l'époque moderne, disons, et contemporaine. Et puis, je vais essayer de mettre en lumière, disons, ce qui me paraît, de manière là encore très, très sommaire et presque caricaturale, ce qui me paraît être la dynamique à l'œuvre dans la révolution des âges de la vie, ou dans les bouleversements des âges de la vie depuis deux siècles, c'est-à-dire la dynamique qui est celle de la révolution moderne, disons, des âges de la vie. Après, bon, sans doute, je dirais de nombreuses choses discutables que nous aurons l'occasion de discuter. Alors, si je pars des phénomènes les plus apparents, on peut évoquer l'accroissement de l'espérance de vie, que je traduirais par l'expression « démocratisation de l'accès au grand âge », puisqu'on n'a pas en vérité reculé l'âge limite maximale de la mort. Il n'y a pas de véritable révolution de la longévité. On ne peut pas vivre... On vivait déjà très longtemps, jusqu'à 100 ou 120 ans auparavant, simplement moins nombreux. Quoi. Deuxième phénomène massif constaté par tous, l'allongement de la jeunesse. Cet allongement de la jeunesse qui est essentiellement l'expression, le reflet la démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur. À 18 ans, la quasi-totalité d'une classe d'âge est encore dans les études. Hervé Lebras a cité tout à l'heure la situation qui était celle de 1936, où 50% des jeunes de 15 ans étaient déjà des actifs. Donc ça, c'est une révolution massive que tout le monde peut constater. Dans les phénomènes un peu moins évidents, un peu moins apparents, mais sur lesquels il y a tout de même un diagnostic relativement partagé, même s'il est discuté, parce que dès qu'on sort du quantitatif et de l'objectivable par les statistiques, ça devient évidemment plus sujet à l'interprétation et plus discutable. L'évanouissement des marqueurs d'âge. Hervé Lebras en a également évoqué aussi le phénomène, en suggérant que nous n'avons plus des repères aussi clairs, aussi distincts, aussi précis pour distinguer les âges de la vie qu'on en avait à l'époque des âges climactériques. Et donc cet évanouissement, cette quasi-disparition des marqueurs d'âge, elle traduit évidemment la fin des rites de passage, des sociétés organisées à partir des âges, mais elle traduit aussi un certain déclin de ce que nous avons appelé la police des âges, c'est-à-dire... une certaine manière un peu rigide de gérer les populations à partir justement de marqueurs d'âge précis, l'âge de la majorité, l'âge de la retraite, ça existe encore bien évidemment, mais cela tend à devenir moins net, quoi, moins précis. Et ce phénomène-là, il est à associer au basculement, alors moins apparent, disons, du fait que la problématique des âges de la vie, de la sphère publique, à la sphère privée. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique des âges de la vie a quasiment disparu de la sphère publique pour la raison qui a été indiquée, c'est-à-dire les âges ne sont plus des principes organisateurs du social, comme c'était le cas dans les systèmes africains que vous décriviez, ou comme ça pouvait l'être d'ailleurs dans une, si je puis dire, dans une philosophie politique qui a duré jusqu'à, enfin, qui a eu un sens en tout cas jusqu'à une période assez récente, par exemple la philosophie politique des Grecs, c'est-à-dire une philosophie politique qui se veut laïque en quelque sorte et détraditionnalisée puisqu'elle est fondée sur la raison et sur la connaissance objective de la nature. Vous avez dans la philosophie politique d'Aristote, par exemple, un problème que pose Aristote qui est la question de savoir comment on peut légitimer ou en tout cas avoir à mettre en œuvre de manière légitime le principe fonctionnel, le principe de la hiérarchie fonctionnelle de commandement-obéissance, qui est nécessaire pour le fonctionnement de la cité, ou au fonctionnement de la guerre, dans la guerre ou dans la cité, comment faire qu'il y ait des gens qui commandent et des gens qui obéissent, tout en considérant ces gens comme des égaux, comme des citoyens égaux. Donc problématique moderne, enfin, en tout cas au premier abord. Et la solution que donne Aristote, la solution rationnelle, qui se veut rationnelle, consiste à dire, eh bien, il y a justement une hiérarchie naturelle qui s'impose à nous, parce qu'elle a un caractère objectif, elle est naturelle, elle est fondée sur la nature même des choses, sur l'ordre du cosmos, c'est la hiérarchie entre les jeunes et les anciens. Donc on peut concevoir, les choses sont bien faites, qu'on sera dans un premier temps, tant qu'on est jeune, en quelque sorte, dans la situation d'obéir. On sera un soldat, justement, ça tombe bien. Quand on est jeune, on est fort, on a la force physique, on est disposé à servir d'instrument au commandement, au chef. Et puis, quand on prend de l'âge, eh bien, on passe au poste de commandement, hein, que ce soit dans la politique. Et ça tombe bien parce qu'avec l'expérience, on acquiert cette vertu, cette qualité morale qu'est la prudence et qui permet de bien exercer cette fonction de commandement. Hein, donc la nature est bien faite et elle permet, en quelque sorte, de fonder un ordre politique. Donc évidemment, cette idée-là, hein, cette idée que l'on puisse se servir de la différence d'âge ou de la distinction des âges de la vie comme un principe organisateur ou ordonnateur du politique, elle a totalement disparu. Même si, vous voyez, aujourd'hui, quand on évoque l'âge des députés, hein, c'est du point de vue de l'égalité des chances entre les individus, c'est pour dénoncer le fait précisément que l'âge joue encore un rôle. Hein, donc on n'utilise pas l'âge comme susceptible de jouer un rôle légitime dans la distribution, si je puis dire, des parts, en l'occurrence dans la distribution des mandats ou des fonctions politiques. Autre phénomène souvent mis en évidence, y compris dans les médias, les moins, si je puis dire, qui s'intéressent a priori le moins à la philosophie ou à l'histoire ou à la démographie, etc., le phénomène du jeunisme. Hein. Là encore, il y a une sorte de diagnostic relativement partagé sur la question du jeunisme de la modernité, contesté aujourd'hui à partir des données qu'a évoquées Hervé Le Braz, c'est-à-dire du fait qu'on assiste à un appauvrissement des jeunes et à un enrichissement des vieux. Mais le phénomène est complexe et paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut faire la part entre ce qui relève du cycle de vie et ce qui relève de la fracture générationnelle, comme on dit, le phénomène des générations. Depuis la crise, évidemment, on connaît des difficultés plus grandes à toutes les étapes du cycle de vie. Et effectivement, on assiste à un creusement entre la situation des plus anciens, qui sont entrés dans la vie avant la crise, si je puis dire, et la situation des plus jeunes, qui, eux, sont entrés dans la vie dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc c'est un paradoxe, mais le fait est que la valorisation de la jeunesse, s'accompagne effectivement d'un phénomène de paupérisation. Et ce qui m'a intéressé dans votre exposé, c'est le fait que ça se marquait territorialement. Hein, c'est-à-dire les jeunes occupent le centre, et donc symboliquement, ils sont effectivement au centre, au cœur de nos sociétés. Ils sont avec les plus riches, si je puis dire. Et en même temps, effectivement, ils ont des problèmes, ils sont les plus pauvres. C'est le paradoxe, c'est intéressant de voir que ça se marque dans les territoires. Alors ce phénomène de jeunisme, on peut le rattacher à un phénomène de plus grande ampleur, là encore un peu moins apparent, mais parfois pointé, qui est le phénomène de la crise de l'âge adulte. Crise de l'âge adulte qui tiendrait au fait justement que les existences aujourd'hui sont plus fragmentées, plus vulnérables, aussi bien dans le domaine familial que dans le domaine professionnel, et qu'il serait de plus en plus difficile, en quelque sorte, de faire la différence entre les adultes et les jeunes. Et puis, on verrait poindre, en quelque sorte, un impératif qui s'imposerait à tous les âges de la vie, qui serait l'impératif de rester jeune. Donc, le jeunisme et la crise de l'âge adulte sont deux phénomènes, en quelque sorte, qu'on peut mettre en parallèle. Alors, mon propos est donc d'essayer de faire apparaître la cohérence entre tous ces phénomènes qui apparaissent, et pléonasme, et de faire apparaître leur cohérence en mettant en évidence le moteur de l'histoire, hein, le moteur de l'histoire des âges de la vie, en tout cas à l'époque moderne, donc de faire apparaître les dynamiques de l'histoire moderne qui sont à l'œuvre dans ces différents bouleversements. Alors, il y a, pour faire très simple, donc deux grands processus à l'œuvre, deux grandes dynamiques. Je vais en développer une essentiellement, qui est celle qui me paraît la plus importante. Ces deux dynamiques s'enracinent dans le XVIIIe siècle, dans le siècle des Lumières, même si évidemment on peut toujours faire une histoire qui montre que bon, c'est plus compliqué, ça part de plus loin. Mais en gros, ce qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est d'une part l'émergence de la conscience historique, et donc qui s'accompagne de l'entrée des sociétés européennes dans l'histoire, à proprement parler, dans une histoire consciente de se faire elle-même, en quelque sorte. C'est l'époque où émerge cette idée qu'on trouve chez différents philosophes, qui sont justement à la pointe de la réflexion sur leur temps, comme Rousseau, par exemple, l'idée que l'humanité se définit par la perfectibilité indéfinie. C'est-à-dire la perfectibilité indéfinie, l'expression se trouve chez Rousseau, ça signifie précisément ce qu'on appelle aujourd'hui l'historicité, c'est-à-dire la plasticité historique de l'humanité. Les sociétés prennent conscience du fait qu'elles ont vocation à changer dans le temps. Et donc elles vont cesser de s'organiser à partir du passé pour organiser en quelque sorte la reproduction du même, la reproduction à l'identique, c'est ce qui caractérise les sociétés traditionnelles précisément, et elles vont commencer à s'organiser à partir de l'avenir. C'est-à-dire en fonction d'un avenir qui est à la fois, qu'on pense à la fois comme inconnu, relativement inconnu, puisqu'il sera différent du passé, et en même temps un avenir que l'on espère meilleur. Donc l'émergence de la conscience historique correspond évidemment, ou va s'accompagner de l'émergence de la pensée du progrès, évidemment, de l'idéal du progrès. Donc cela a des répercussions, je le dirai en quelques mots tout à l'heure à propos des différents phénomènes que j'ai évoqués, mais cela a des répercussions sur la conception des âges de la vie, et ça a une répercussion massive en particulier, c'est qu'évidemment on va valoriser la jeunesse, si vous voulez, l'origine du jeunisme se situe ici, hein, c'est-à-dire dans cette émergence de la conscience historique, on va valoriser la jeunesse, qui est la jeunesse, ça devient la nouvelle génération, la génération qui apporte le changement, qui apporte l'innovation, qui va en tout cas devoir porter l'innovation, et qui va donc introduire le changement historique dans la réalité sociale, et le jeune est le représentant de l'avenir, précisément par excellence. Et évidemment, l'envers, c'est la dévalorisation de la vieillesse, quand bien même les vieux seraient plus riches que les jeunes, ça n'y change rien, dévalorisation de la vieillesse, dévalorisation de l'expérience, qui aura dans la modernité évidemment des, si je puis dire, vecteurs opérationnels tout à fait concrets avec le phénomène économique de la destruction créatrice qui fait que l'obsolescence sociale intervient de manière de plus en plus précoce. C'est le problème qu'on a du chômage des seniors, de la difficulté de l'information permanente, etc. Phénomène bien connu. Je laisse de côté cette dynamique-là, hein, qui est celle de l'historicité ou de l'historicisation des sociétés modernes, en quelque sorte, pour aborder l'autre dynamique sur laquelle je vais insister davantage, qui est la dynamique de l'individualisme. Alors, la dynamique de l'individualisme, ça désigne la transformation, la métamorphose du lien social dans les sociétés modernes. Donc, le concept aujourd'hui très, très largement utilisé par de nombreux sociologues, historiens, philosophes. On trouve l'origine de la première grande analyse, disons, réellement forte de ce phénomène, on la doit à Alexis de Tocqueville, donc c'est lui qui s'est emparé de ce terme d'individualisme qui était dans l'air du temps pour désigner précisément ce phénomène de métamorphose du lien social, ce qu'il appelle la révolution social-démocratique, qui est sous-jacente et plus profonde que la révolution politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? L'individualisme pourrait désigner un système de valeurs. Tocqueville a ça à l'esprit, évidemment. Le système de valeurs individualiste, c'est la philosophie des droits de l'homme de 1789. Les droits de l'homme sont des droits de l'individu, c'est l'individu qui est le porteur des droits. Et la conséquence politique de la philosophie des droits de l'homme, c'est qu'on dit que l'État doit garantir les droits de l'individu. Donc on met l'État au service de l'individu. Renversement par rapport au rapport traditionnel de la communauté et de l'individu. Hein, ce n'est plus le tout qui prime sur les parties. L'individu qui est au service de sa communauté, c'est la communauté, le tout, c'est l'individu, les parties, les individus qui priment sur la communauté, qui est au service précisément de l'individu, de la production de l'individu, de la préservation de ses droits. Donc ça, c'est cette dynamique-là, cette dynamique politique fondée sur ce système de valeurs, elle est bien connue, Tocqueville l'a sous les yeux, et c'est à ça qu'il pense lorsqu'il cherche à mettre en évidence un processus historique multiséculaire qui précède très largement la Révolution française et qui se continue à produire des effets bien au-delà de la Révolution française, et à dire vrai, jusqu'à nous, et des effets que Tocqueville lui-même n'a pas anticipés, en dépit du fait qu'il avait bien identifié le moteur ou le ressort ou la dynamique à l'œuvre. En gros, en substance, les deux grandes révolutions produites par cet individualisme, cette dynamique individualiste... Alors oui, tout de même, avant ça... Que signifie cette métamorphose du lien social? Qu'est-ce qui se transforme? Eh bien, le lien social de la quasi-totalité des sociétés qui ont existé, pour ne pas dire toutes les sociétés qui ont existé dans l'histoire avant l'époque moderne, Tocqueville n'évoque que les sociétés aristocratiques, mais pour désigner en fait toutes les sociétés d'avant la révolution social-démocratique, précisément, toutes ces sociétés-là ont en leur cœur, enfin, sont organisées autour d'un lien social hiérarchique. Le lien social est structuré, si vous voulez, par le principe de hiérarchie. Partout où vous vous tournez, hein, vous avez des inférieurs et des supérieurs. Même le roi, hein, auquel tous les sujets sont subordonnés, y compris les grands seigneurs, etc., lui-même est soumis et subordonné à Dieu.
Hein, donc, assujetti.
Assujetti à Dieu. Donc, il y a, comme dans une armée, si vous voulez, le lien hiérarchique est fondamental, si bien d'ailleurs que l'individu, ça va de pair avec la question de l'individualisme et du dualisme, l'individu ne peut pas exister indépendamment du tout, hein, puisqu'en fait, sa place dans la hiérarchie, sa situation dans la hiérarchie sociale, lui signifie une fonction, une identité, mais aussi une fonction. Il n'existe pas comme être, comme fin en soi, et comme entité indépendante du tout, en vérité. Donc, la révolution individualiste est liée au phénomène, à la dynamique de l'égalité des conditions, explique Tocqueville. Égalité des conditions et individualisme vont ensemble. Et nous le savons très bien, nous devrions le savoir très bien, parce que nous avons tous en tête la grande émancipation des femmes au XXe siècle. Et quand on parle de l'égalité des femmes, on parle de la conquête par les femmes de leur indépendance. Parce que mon ami, le sociologue Gilles Lipovetsky, a parlé d'avènement de la femme individu, précisément en ayant à l'esprit cette dynamique de l'individualisme, l'avènement de la femme individu, parce que la femme était la femme au foyer était encore conçue, en quelque sorte, son identité était encore conçue en fonction de ce principe hiérarchique au sein de la cellule familiale. Elle avait des fonctions éminentes, mais des fonctions hiérarchiquement, en quelque sorte, inférieures à celles de l'homme, et l'homme et la femme formaient une relation complémentaire au sein d'une cellule, précisément, qui constituait une sorte de communauté par rapport à laquelle les deux individus ne pouvaient pas se concevoir comme indépendants en valeur et par conséquent aussi socialement. Alors les deux grandes révolutions qui expriment cette dynamique de l'individualisme moderne sont évidemment la révolution politique et sociale, la grande conquête politique, le suffrage universel, c'est en fait le suffrage individuel pour tous. Cela signifie que l'on considère que chaque individu, à égalité avec les autres, est doté d'un jugement, d'une capacité de juger qui lui donne le droit, en quelque sorte, d'exprimer, de voter, d'exprimer un droit de regard sur la manière dont est conduite la politique. Et puis, la deuxième grande révolution, c'est donc la révolution familiale, que j'ai déjà un peu évoquée en parlant de la femme, la révolution familiale, ce que Luc Ferry appelle la révolution de l'amour, c'est en fait la révolution du lien familial, qui n'est plus effectivement structuré par le principe de hiérarchie, mais qui est structuré par l'amour, c'est-à-dire la relation élective entre deux êtres indépendants et qui ne peuvent justement s'aimer que parce qu'ils se conçoivent comme indépendants. Les deux, les choses, l'amour et l'indépendance dans le couple vont ensemble. Et donc la révolution familiale, ça passe par le mariage d'amour dans un premier temps, l'émancipation du couple par rapport à l'institution du mariage dans un second temps. Et donc, ce que je...
Les implications au regard des relations d'âge.
J'en viens à mon propos. J'ai combien de temps encore ?
Quelques minutes, sachant qu'on peut prolonger à travers...
Voilà. Donc, ce que je voulais suggérer, c'est que là, on pourrait considérer que la révolution des âges de la vie est justement une autre révolution produite, en quelque sorte, par cette dynamique de l'individualisme moderne. Alors, je vais essayer d'aller très vite en évoquant quelques phénomènes que j'ai évoqués en introduction, justement. S'agissant par exemple de l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui l'explication habituellement donnée, c'est que bon, on a la révolution pasteurienne, les vaccins, l'hygiène, etc. Vous avez une sociologue, alors je vais très vite, hein, mais il y a une sociologue économiste, enfin économiste et sociologue de la famille, justement, elle a mis les deux, enfin, elle a fait à la fois l'histoire de la famille et elle essaye d'interpréter l'histoire de la famille à partir des données de l'économie, qui s'appelle Viviana Zelizer, qui a montré que qui a tenté justement de montrer, c'est la thèse qu'elle défend, que la baisse de la mortalité infantile doit être expliquée par l'émergence de l'enfant du désir ou de l'enfant de l'amour, si vous voulez, c'est-à-dire ce serait parce que nous avons commencé à sacraliser l'enfant, à sanctifier l'enfant, à sacraliser l'individualité de l'enfant, que nous avons prêté une attention plus grande à toutes les conditions nécessaires pour sauver la vie de l'enfant en tant qu'individu. Donc ce n'est pas qu'avant on n'aimait pas les enfants, mais elle montre très bien, à partir des données justement économiques, sur le cas des États-Unis, que dans la période 1870-1930, en gros, se produit une transition dans le rapport à l'enfant. C'est une analyse un peu analogue à celle de Philippe Ariès pour l'Europe, hein, le développement de l'émergence du sentiment de l'enfant. Elle montre que l'enfant était perçu comme étant pourvu d'une valeur économique et sa valeur était estimée en fonction de son utilité économique, sa productivité, et qu'à mesure qu'il devient improductif, à mesure qu'il cesse d'être utile, eh bien, sa valeur économique croît de manière totalement disproportionnée. Le titre de son livre, c'est d'ailleurs « Le prix de l'enfant hors de prix ». Je vous donne la traduction française pour vous éviter le supplice de ma prononciation. Le prix de l'enfant hors de prix, c'est-à-dire l'enfant, la relation à l'enfant devient totalement désintéressée, mais précisément, c'est parce que cette relation devient totalement désintéressée que la valeur de l'enfant, la valeur économique de l'enfant, eh bien, prend des proportions énormissimes. Alors, évidemment, dans le cas des États-Unis, elle étudie le phénomène du marché de l'adoption. Avant, on payait les nourrices pour se débarrasser des enfants. Désormais, on paye très très cher pour essayer d'obtenir des enfants. Et également, elle évoque le phénomène des procès judiciaires où auparavant, on dédommageait les parents en fonction de la perte économique. Et désormais, on essaye de les dédommager en fonction de la perte sentimentale. Donc, transformation radicale, en fait, du lien familial qui s'explique, qui serait donc au fondement, en quelque sorte, le moteur de la dynamique de la baisse de la mortalité infantile et donc de l'allongement de l'espérance de vie. Deuxième phénomène.
Le démographe tique.
Oui, mais j'imagine, oui.
Pourquoi ?
Il va m'expliquer pourquoi il tique. Mais c'est
secondaire.
Deuxième phénomène, l'allongement de la jeunesse. Évidemment, l'allongement de la jeunesse, je vous le disais, on le rapporte à une causalité qui est la démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur. D'abord, la fin du travail des enfants. On scolarise tous les enfants, puis ensuite les adolescents. Et puis ensuite, depuis une date d'ailleurs très récente, les post-adolescents, hein, d'où l'émergence effectivement de la post-adolescence. Eh bien, évidemment, cet allongement de la jeunesse peut être rapporté à une norme collective, à une norme sociale qui est celle de la production de l'individualité. Il y a une norme qui est en fait sous-jacente à tous nos débats sur le système éducatif quand on y réfléchit, on conçoit le système scolaire comme le moyen de doter l'individu d'une capacité d'autodétermination, d'une capacité d'autonomie et de le doter également du pouvoir de choisir sa vie, du pouvoir d'échapper à son destin social, de pouvoir se construire lui-même son avenir. Et vous voyez bien que quand on évoque par exemple le phénomène de l'orientation, le mal absolu, c'est d'orienter les élèves malgré eux. On est aux antipodes des rites de passage, où en fait c'est la communauté qui s'empare de l'individu pour le faire passer d'un âge à un autre, sans lui demander évidemment son avis. Donc on est... Et le mal absolu, quand on veut critiquer le système scolaire, le système éducatif, le mal absolu, c'est un système qui reproduit les destins sociaux. C'est la reproduction sociale, le mal absolu qu'on critique quand on veut dénoncer le système. Mais ça signifie bien que la norme, l'idéal, c'est l'émancipation des individus. Les doter d'une plus grande liberté, d'une plus grande capacité d'échapper à leur héritage, finalement, pour se doter librement d'une destinée personnelle. Et je vais conclure, malheureusement. Dernier phénomène, donc j'ai évoqué la crise de l'âge adulte, la question du jeunisme. En son fond, je dirais que la crise de l'âge adulte est une crise de la maturité adulte. Donc la crise d'un idéal, de l'idéal de la maturité adulte. Qu'est-ce que c'était que l'idéal de la maturité adulte? C'était l'idée que l'accomplissement d'une vie nécessitait du temps et n'était possible en fait qu'à l'âge adulte. On se préparait pour un accomplissement futur. Et cet accomplissement, évidemment, coïncidait, la représentation de cet accomplissement à l'âge adulte coïncidait évidemment avec la reconnaissance d'une forme de supériorité de l'adulte sur le jeune, évidemment. Donc il y aurait une crise de la maturité adulte, il y a une crise de l'idéal de la maturité adulte, même si on pourra nuancer, on aura l'occasion de la discussion, parce qu'il y a précisément une montée en puissance, on pourrait, disons, rapporter cette crise à une montée en puissance d'un nouvel idéal de masse, qui est justement l'impératif de rester jeune, cette norme du jeunisme, et que nous rapportons dans notre livre à la philosophie sartrienne, parce que dans l'histoire de la philosophie, il n'y a qu'un seul philosophe jeuniste, c'est Sartre. Il n'y a qu'un seul philosophe qui produit une critique radicale de l'âge adulte, c'est-à-dire de la réification, de l'aliénation dans les choses réalisées qui caractérise l'âge adulte, c'est Sartre. Et il le fait au nom de quel idéal ? Au nom de l'idéal de la liberté individuelle. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est se garder disponible. C'est faire, en quelque sorte, conserver toute sa vie l'âge des possibles. La possibilité de défaire, de refaire sa vie, de réinvestir de nouveaux engagements, etc. etc. Donc, là encore, on peut montrer qu'en son fond, la crise de l'âge adulte, qui a évidemment une multiplicité d'aspects, peut être rapportée à la montée en puissance de l'idéal moderne de l'individualisme.
Merci doublement. Merci. Merci doublement. D'abord, vous êtes livré à cet exercice particulièrement contraint. Les règles étaient fixées, vous les avez respectées. Et merci d'avoir grappillé quelques minutes pour exposer cette idée conclusive, mais provisoirement conclusive, à savoir le fait que la contestation du statut de l'adulte est inscrite dans les germes de la modernité qui porte en elle l'idée de l'existence d'individus par-delà leur âge, etc. Donc merci d'avoir pris ces minutes supplémentaires pour exposer cette idée qui justifiait pleinement votre présence ici. Nous avons quelques minutes pour échanger. Je ne perds pas de vue que le démographe a tiqué à un moment précis. Il peut expliquer pourquoi.
Non, c'est un mot, mais autant le travail de Viviana, que je ne connais pas bien d'ailleurs, de Lieber, est très intéressant et reprend effectivement Ariès, mais ça ne joue absolument pas sur l'allongement de la vie des personnes de plus de 60 ans, si vous voulez. Ce qui s'est produit. Et qui est quand même le phénomène massif du vieillissement maintenant, c'est le fait que l'espérance de vie, je l'ai rappelé, qui stagnait après 60 ans, s'est mise à grimper très rapidement. Et je crois que là, en fait, c'est très difficile. Enfin, moi, je ne connais pas d'explication pertinente de ce phénomène assez surprenant que j'ai signalé. C'est en plein début de crise des années 70, c'est le moment où l'espérance de vie des personnes âgées se met à augmenter rapidement.
Oui, mais justement, je pense que c'est un paradoxe du même ordre que le paradoxe valorisation-appauvrissement de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui sont, qu'on ne peut pas expliquer si on ne prend que des critères économiques, justement. Je pense que l'allongement de l'augmentation d'espérance de vie qui s'origine dans les années 70, enfin à partir des années 70, qui est l'augmentation de l'espérance de vie à 60 ans, qui évidemment, je suis d'accord avec vous, la plus déterminante s'agissant du gain réel d'espérance de vie pour les individus adultes. Bon. Elle s'inscrit, à mon sens, dans le prolongement de cette production de l'individu par les sociétés. Alors, il y a un argument que je n'ai pas cité, qui est un argument qu'on peut trouver dans le livre de Daniel Cohen, Les temps modernes, qui montre qu'en fait, au XXe siècle, précisément, il y a eu un basculement de l'économie, de la production des objets vers la production de l'homme. Lui, il appelle ça la production de l'homme. L'augmentation des dépenses de santé, dépenses d'éducation, etc. C'est-à-dire, effectivement, ça se traduit par l'amplification du secteur des services. En fait, toute la société est désormais organisée, en quelque sorte, en vue de la production de l'individu. Et donc, ça se traduit, évidemment, par les progrès de la médecine. Évidemment, ce n'est pas l'individualisme tout seul. Il faut aussi qu'il y ait la science et l'économie. Il faut qu'il y ait la croissance, la science, les techniques, etc. Néanmoins, c'est le prolongement, je pense, de cette sacralisation de l'individu, en quelque sorte.
Oui, en un mot, le vieillissement... On accuse le vieillissement, on dit que ça va être des coups de santé énormes, mais la relation est inverse. C'est parce qu'il y a eu des coups de santé forts qu'il y a...
Oui, je suis d'accord.
Madame.
Oui. Ma question, je reviens un petit peu en arrière, mais ce n'est pas sans lien par tout ce qui vient d'être dit. C'était par rapport à l'activité. Tout d'un coup, le schéma que vous nous avez montré, à 60 ans, l'activité diminue complètement. Quel type d'activité ? Est-ce que les retraités ne vont rien faire ? Vous avez évoqué tout à l'heure leur participation à la collectivité. Enfin, donc ça pose quand même cette question. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites pour évaluer ce type d'activité de participation à vie collectivité. Mais donc ça rejoint quand même aussi la question... au niveau philosophique, de la crise, de la maturité, et puis aussi je dirais, du lien social quand même, et de l'individualisme. Et ça rejoint un peu toutes ces questions, enfin, parce que le retraité, il ne travaille plus à 60 ans, passé 60 ans, mais il ne va pas rester seul dans son coin. Enfin, bon. Alors, comment, qu'est-ce que... Hein
non, très rapidement.
Donc, je pose la question.
Oui, non, très rapidement, il y a une confusion. Le mot activité ne signifie pas, il n'est pas général. Il signifie activité rémunérée, hein, et par opposition à la retraite. Donc, il n'a bien entendu... Et d'ailleurs, j'aurais aussi pu m'attarder sur le fait que les personnes âgées ont une santé qui va de mieux en mieux, et on le mesure par ce qu'on appelle une espérance de vie en bonne santé ou une espérance de vie sans incapacité, qui progresse actuellement aussi vite et même un peu plus vite que l'espérance de vie elle-même. Donc là, vous avez tout à fait raison, et je crois qu'on y a fait allusion à d'autres moments en disant à quel point, justement, au sens général du terme, les personnes âgées étaient actives, mais au terme économique, elles ne sont plus actives.
Guillaume Maché. Oui.
Moi, je suis embêté parce que je ne sais pas quelle intervention je vais pouvoir faire après Cédric de Chavannes. Bon, mais ça, c'est mon problème. Non, la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez dit au début de votre exposé que vous estimiez que l'âge n'était plus la variable. Enfin, vous n'avez pas dit variable, mais principe structurant de la société. Et quand on voit quand même la quantité de mesures d'âge, aussi bien vis-à-vis des jeunes que des moins jeunes, quand on voit ce que rappelait Hervé Lebras sur la distribution géographique et sociale des âges, mais aussi la politique, on pourrait parler de l'âge de nos députés, enfin de nos parlementaires plus globalement, etc. Il y a peut-être eu un malentendu, mais si vous pouviez revenir une minute là-dessus.
Volontiers. Alors,
bien sûr. Ça anticipe sur l'intervention d'Anne-Marie Guillemard, mais allez-y.
Alors, premièrement, ça ne veut évidemment pas dire... Sinon, j'aurais pas écrit un livre sur les âges de la vie, qu'il n'y a plus d'intérêt pour la question des âges de la vie, la question de l'âge. Au contraire, je dirais même que nous avons plus que jamais, l'individu contemporain a plus que jamais conscience de son âge. Le rite moderne par excellence, c'est l'anniversaire. C'est-à-dire qu'on compte les années les unes après les autres et on a parfaitement conscience qu'on s'inscrit effectivement dans une catégorie d'âge. Moi, j'ai participé à plusieurs colloques sur le quinca aujourd'hui, le cadra aujourd'hui, etc. Donc c'est évidemment une préoccupation collective. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est là que je réponds à votre question, c'est que quand on utilise des catégories d'âge, soit on part de l'individu, on essaye de faire des statistiques à partir des destins individuels, mais on n'enferme pas les individus et les destinées individuelles dans des catégories prédéterminées. C'est-à-dire on est dans la rationalisation a posteriori, on est dans l'activité de connaissance, disons. Bon. Soit on utilise des catégories prédéterminées, mais alors, en fait, des catégories prédéterminées sans contenu, des catégories prédéterminées indéterminées. C'est ce qu'on fait quand on utilise ces chiffres ronds. Avoir 20 ans aujourd'hui, avoir 30 ans aujourd'hui, avoir 40 ans aujourd'hui, avoir 50 ans aujourd'hui, c'est plus, ça n'a pas du tout la même fonction ni le même sens que les âges climactériques hein, qui étaient supposés justement scander, montrer que le cycle de vie est scandé en fonction d'un rythme naturel objectif qui est le reflet de l'ordre cosmique. Plus tout ça. On utilise des catégories prédéterminées, indéterminées, parce que précisément, c'est la réflexion, c'est la connaissance qui va nous permettre de remplir éventuellement, c'est la réflexion sur nos expériences toujours changeantes, hein, qui va nous permettre de donner à chaque fois un nouveau contenu aux identités d'âge. Hein, mais elles ne sont pas fixées a priori.
Et la preuve, bah, les deux interventions suivantes, me semble-t-il, hein, on est dans une parfaite transition, puisque le travail de Guillaume Machet et de Claudine Attia-Donfu, bah, que j'invite peut-être à nous rejoindre à la tribune, on va faire un chassé-croisé. Alors, sachant qu'Hervé Lebras reste encore avec nous jusqu'à une bonne demi-heure, c'est ça ?
Oh, oui, oh,
très bien.
Jusqu'à 9h.
Et qu'Éric, alors parfait, très bien. Éric reste avec nous tout au long de la soirée, donc on pourra continuer à échanger. Ben Claudine, Attia Donfu et puis Guillaume, voilà. Merci à tous les deux. Hein. Allez, on peut applaudir histoire d'entretenir l'émulation collective. Alors Claudine, Attia Donfu. J'ai dit que j'ai précisé que vous alliez en Chine, je ne dirais pas pour quel motif, quoique je pense que.
Pour parler du vieillissement.
Voilà, voilà. Même là-bas, même en Chine, ils sont voilà, plus que jamais confrontés. Hein, c'est un pays. Permettez-moi juste de préciser, Claudine Attia Donfu, bah, on est ravis de vous revoir ici à Poitiers, hein, parce que vous avez déjà accueilli sur une autre problématique relative à la cohésion sociale. Et puis, vous êtes sociologue et c'est vous qui dirigez les recherches à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, justement sur ces mouvements de société. Et vous avez réfléchi à la... Vous avez contribué à forger des nouvelles notions pour essayer de saisir ces évolutions. Celle de maturescence, dont parle d'ailleurs Éric Deschavannes en vous rendant hommage au passage dans son livre. Et vous avez débouché sur la mise au jour d'une génération pivot. Ben, j'en dis pas plus. Je vous laisse le soin de nous préciser tout ça en une vingtaine de minutes. Sinon, vous allez rater votre avion.
Non, je ne serai pas ce soir.
Oui, j'imagine.
Bon, mais merci, merci beaucoup. Et je dois dire effectivement que c'est un plaisir de revenir à Poitiers, où je commence à être une habituée presque. Et donc, merci de me réinviter. Donc, ce thème que je vais traiter a émergé finalement au cours de notre conversation téléphonique, la conversation téléphonique que j'ai eue avec Sylvain Allemand sur le programme de la journée. Et il nous est apparu qu'il était important de réintroduire la notion de génération dans les réflexions sur les parcours de vie. Car chaque âge de la vie est aussi l'expression d'un certain état des rapports entre générations et qui sont en continuel changement comme le déroulement de la vie même. Et si l'allongement de la vie transforme toutes ces étapes, elle transforme aussi les liens entre générations, ne serait-ce que par l'augmentation du nombre de générations en présence à un moment donné. Donc il y a des articulations qui se font entre la transformation des étapes de la vie et la transformation des relations entre générations. Et je vais me référer aussi, d'ailleurs, il y a toute une branche de la sociologie qui s'appelle The Life Course, la sociologie du parcours de vie, qui est très développée surtout dans les pays anglo-saxons, mais qu'elle aussi on a contribuer, Marie et moi-même, et donc des chercheurs français et européens. Et donc c'est toute une branche de la sociologie qui finalement s'efforce de considérer l'individu dans sa dimension temporelle, dans tout son parcours de vie, pour en étudier les transformations, les déterminations et pour essayer de mieux comprendre finalement les facteurs sociologiques, les comportements, etc., à travers les parcours de vie. Et donc, je vais un petit peu me référer. Et dans ces réflexions sur le life course, il y a, on fait beaucoup intervenir aussi la notion de génération, en particulier toute vie est marquée par son empreinte générationnelle. L'appartenance à une génération, à une cohorte, marque profondément, ne serait-ce, on le sait bien, que l'entrée dans le monde du travail, le fait des crises, des guerres, etc. Donc les parcours de vie sont profondément marqués par la génération à laquelle on appartient, mais aussi elle ne se construit pas indépendamment des autres générations. Par exemple, un événement de vie pour une femme, qui naissance d'enfant, divorce, maladie, peut modifier le choix de vie de ses parents, peuvent décider de déménager pour s'occuper des petits-enfants, par exemple, ou le fait de percevoir un héritage peut transformer aussi la décision du lieu d'habitat, du lieu de travail. Donc, on peut trouver beaucoup d'exemples d'événements qui surviennent dans une génération et qui transforment, qui apportent des changements importants dans une autre génération, ce que l'on a appelé l'entrecroisement des existences, qui est très, très important, montre ce lien entre générations, et qui montre les influences mutuelles des histoires de vie des proches, évidemment, pas seulement des générations, mais des proches, des conjoints, des amis, etc. Et cela signifie aussi qu'il y a des moments dans la vie où les décisions que l'on prend vont avoir des conséquences importantes pour soi et pour les autres. Autrement dit, l'action humaine est déterminante, et ça c'est un point important dans l'étude sur le cours de vie. Le sujet ne subit pas passivement des déterminations sociales qui lui seraient imposées, il est aussi acteur de sa vie, malgré les contraintes historiques et sociales qui s'exercent sur cette vie. Et c'est surtout dans les périodes de transition que les possibilités de choix, dans les périodes décisives, les tournants de la vie qui ont fait aussi l'objet d'études approfondies. Dans ce champ du life course, où une décision ou l'autre peut infléchir le reste de l'existence dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a toujours une possibilité de choix malgré la puissance des déterminations. Et donc, ce qui veut, en fait, c'est aussi la conséquence du processus d'individualisation qui fait que la vie, comme l'a bien dit aussi, la vie ne se déroule pas dans des moules préétablis, mais qu'il y a des lignes de vie individualisées. Ça rejoint tout à fait votre analyse de la transformation actuelle des parcours de vie. Mais il faut dire que la plupart des réflexions qui ont été faites sur les parcours de vie s'inspirent du modèle du parcours de vie masculin. Et il y a des différences, ils n'ont pas suffisamment tenu compte des différences entre les parcours de vie féminins et les parcours de vie masculins. En réalité, les hommes et les femmes, même s'il y a un rapprochement actuel dans le monde du travail, elles ont un rapport différent au temps, un rapport différent à l'âge et au cycle de vie familiale. Et les hommes ont été traditionnellement plus fortement liés à la sphère économique et politique et plus ancrés dans le temps linéaire. Et dans ce sens, on peut même dire qu'ils sont plus contraints par l'âge chronologique que les femmes, tandis que les femmes se rattachent davantage à la sphère familiale, dont la temporalité n'est pas linéaire, mais elle est plus discontinue. Donc, à l'exception, évidemment, de l'horloge biologique de la procréation. Donc ces différences restent toujours actuelles, même s'il y a une transformation dans les rapports de sexe, et même si de plus en plus de femmes ont des parcours qui se rapprochent du modèle masculin. Et cela veut dire aussi que selon les sphères de la vie sociale, publique ou privée, la définition des âges de la vie n'est pas la même. Et il y a d'ailleurs une contradiction, on a parlé, une forte contradiction entre les définitions sociales des âges selon qu'elles se font dans le monde du travail, dans la vie politique, ou dans la vie privée de l'individu, de la famille. Par exemple, Anne-Marie en parlera longuement, la tendance, alors que dans la vie privée, il y a une tendance à vouloir rester jeune le plus longtemps possible et à paraître jeune, même au-delà de 70 ans. Dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les plans seniors qui ont été rendus récemment obligatoires pour favoriser l'emploi des seniors dans les entreprises. Et il y a des programmes qui sont mis en place, des programmes seniors, et qui commencent à partir de 45 ans. Alors, on a beaucoup de témoignages de personnes qui, à 45 ans, découvrent qu'elles font partie du plan senior et qui sont absolument choquées, qui ne se reconnaissent pas du tout dans cet âge. Alors que, par ailleurs, dans la vie privée, on reste jeune plus longtemps, 45 ans. Et par ailleurs, dans la vie politique, et alors là, je crois que le nouveau chef d'État italien, il doit avoir 68 ans. Donc on est récemment nommé à 68 ans. Donc dans la vie politique, ce n'est pas du tout la même échelle des âges. Donc il y a ces différentes sphères de la vie, le privé, le public, le politique, le professionnel, qui délimitent des âges et des images de l'âge qui sont en pleine contradiction. Et ces contradictions sont de véritables obstacles pour résoudre les difficultés d'emploi des seniors, pour résoudre les problèmes des relations internes dans l'entreprise, et surtout qu'il y a de plus en plus dans les nouvelles générations moins de séparation entre la sphère publique et la sphère privée. Il y a plus d'interférences entre les deux sphères. Et donc, avec l'allongement de la vie, les générations se chevauchent aussi, plus qu'elles ne se succède. Alors, je fais un petit graphique pour donner un petit peu un exemple. G1, G2, G3, G4, G5, G6, c'est ce qu'on donne habituellement, aux générations les plus âgées. Donc, à un même moment, si on les considère à 20 ans d'écart, on a bien six générations, six cohortes, six générations familiales. Et à un moment dans la société, il y a plusieurs générations, mais qui sont liées par filiation. Et c'est principalement au sein de la famille qu'il y a des contacts entre toutes les générations, depuis de la naissance jusqu'à la fin. La probabilité aujourd'hui de devenir grand-parent est très importante, et celle de devenir arrière-grand-parent est en augmentation. Et donc, c'est une tendance assez générale en Europe, et je vais vous donner là quelques résultats d'une enquête européenne sur les personnes de plus de 50 ans, posées sur un certain nombre. Poser simplement la démographie. Démographique, là, c'est le nombre de grands-parents qui est plus de 70%. En France, c'est plus de 70% parmi les plus de 50 ans, qui varie effectivement, alors, et le nombre d'arrière-grands-parents. Alors, ça varie effectivement selon le taux de fécondité. Il est plus faible en Italie. Le nombre d'arrière-grands-parents est plus faible parce qu'il y a moins de fécondité. Il y a maintenant des plus grandes distances générationnelles. Et en France, il est relativement élevé grâce à la bonne fécondité. Les générations familiales se superposent aussi aux autres générations, aux générations historiques, aux générations sociales, pour et traverse les âges de la vie. Alors, c'est représenté ici, alors c'est moitié français, moitié anglais, les grandes catégories dont on a parlé. Il y a les personnes de la vie active, les jeunes qui sont avant l'entrée dans le monde du travail, et les retraités qui sont ce qu'on peut appeler les générations du welfare ou les générations de la protection sociale, qui se recoupent et qui sont traversées par des générations familiales. Alors, je ne sais pas si on peut... si on peut voir ici... les enfants, on reste enfant toute sa vie, tant que les parents sont vivants, et on reste enfant jusqu'à l'âge de la retraite, où on a encore ses parents.
Donc Jung, hein, et retired, c'est voilà. Retraité. Hein, c'est
ça. Là, ici, les enfants. Les parents, bon, on reste parent toute sa vie. Grands-parents, on commence à être grands-parents pendant la vie active, et on est grands-parents maintenant de plus en plus. Longtemps, ça représente à peu près la moitié de la vie, la durée de la grand-parentalité, et l'arrière-grand-parentalité, bon, est plus courte. Mais on voit que on traverse à la fois des statuts générationnels familiaux, en même temps des changements de génération historique, et en traversant aussi des différentes générations du welfare. Donc c'est une introduction pour arriver à la période de maturité sur laquelle je vais centrer ma présentation, et qui est en correspondance avec la mutation des rapports entre générations qui a produit le phénomène de la génération pivot, comme vous l'avez dit. Rapidement, la notion de maturité exprime l'idée d'un état stable, d'un plateau au cours du développement, et pendant longtemps, la psychologie avait estimé qu'il y avait une progression, une croissance pendant l'enfance et la jeunesse, et qu'on arrivait ensuite à un état assez stable qui était l'aboutissement de ce processus de croissance. Et depuis, il s'est avéré que ce processus, dans la psychologie même, que le processus de développement n'est jamais terminé. Donc c'est pas seulement, ça rejoint un peu l'analyse historique et philosophique, et les psychologues, ce qui est devenu d'ailleurs la psychologie du développement plutôt que la psychologie du vieillissement, aussi bien dans la personnalité que dans la gestion de sa vie, il y a un processus continuel de transformation et de changement. Et donc la notion de maturescence, j'avais forgé cette notion qui s'oppose à celle de maturité parce qu'elle évoque davantage un mouvement, et de même qu'on parle d'adolescence, de sénescence, de vieillissement, on doit parler de maturescence plutôt que de maturité. Alors, entre parenthèses, selon les données de la psychologie du vieillissement, et je trouve que c'est quelques résultats qui sont réconfortants et que je vais vous communiquer, le vieillissement n'est pas nécessairement synonyme de détérioration. Bien au contraire, la personnalité se bonifie sur bien des points. On a montré par exemple que les individus deviennent plus consciencieux et surtout plus tolérants à mesure du vieillissement, avec plus de stabilité émotionnelle, et plus altruistes, plus confiants. Voilà.
À partir d'enquêtes qualitatives,
à partir d'enquêtes psychologiques, à partir de travaux de psychologie dure, avec des tests, avec des grandes tests, surtout les travaux américains, de psychologie du vieillissement et d'enquêtes longitudinales psychologiques. Et qui montre, alors c'est une moyenne, évidemment, c'est pas général, il y a des différences individuelles, et puis des différences aussi selon les aléas de l'existence, selon l'accomplissement ou non de l'existence. Mais globalement, je trouve que c'est intéressant, il ne le dit pas assez, que les études de psychologie très pointues montrent une bonification avec l'âge, et une plus grande stabilité émotionnelle, même si on le sait très bien que dans le grand vieillissement, il y a plus de risques de dépression. Alors la notion de maturescence peut être aussi forgée par analogie à l'adolescence, et plus qu'une correspondance symbolique entre ces deux âges, il y a une véritable interaction qui se produit entre eux et qui a pour résultat un façonnement mutuel. Comme je l'avais dit à Sylvain, c'est aussi une expérience personnelle que j'ai réalisée, que tous les parents peuvent avoir, c'est au moment de l'adolescence des enfants, les transformations de l'enfant remettent en question et font prendre conscience du temps et du vieillissement. Et les jeunes se constituent par opposition à la génération précédente, et qui devient le contre-modèle, mais en se constituant, il pousse la génération précédente à se définir. Mais ce qu'il a défini appartient déjà au passé. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation, une définition et une relégation en même temps des générations précédentes. Ces confrontations sont plus ou moins éprouvantes, plus ou moins conflictuelles, bien sûr, mais les enjeux en sont importants. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on analyse la jeunesse, ce n'est pas seulement en opposition à la génération précédente qu'elle se définit. On voit bien qu'il y a une nouvelle vision du monde, ne serait-ce que par son immersion dans le numérique, qu'il y a que la génération, les jeunes actuels, qu'on appelle la génération Y ou la génération C, ou d'autres termes, font couler beaucoup d'encre, font beaucoup réfléchir, parce qu'on sent qu'il y a là une modernité qui échappe même au précédent. Alors, je sais que Marie-Françoise introduit le numérique parmi les hold-up et que ça, c'est très important. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une diffusion de cette mutation fantastique des modes de vie et même des visions du monde qui va se diviser aux autres générations, mais pour l'instant, elle est portée par une génération, et pas seulement en opposition aux autres générations, parce qu'on vit une mutation formidable. Alors, à une autre extrémité, la maturescence se prolonge au-delà de la retraite. Donc, il y a la prise de conscience, déjà, de sa génération dans la confrontation avec les jeunes, et il y a aussi la prolongation. La prolongation au-delà de la retraite. Et là, une petite parenthèse sur ce que l'on appelait le troisième âge et qui s'inscrit aujourd'hui justement dans cette prolongation. La signification de la retraite a changé. Elle n'est plus seulement repos et loisir. Elle représente désormais une promesse de vie à soi, pour soi. C'est une représentation, c'est aussi un espoir et un imaginaire de la retraite qui ont transformé l'ensemble du parcours de vie et qui colore toute la vie professionnelle qui puise justification et rétribution. J'ai fait dernièrement une enquête auprès de salariés et l'image de la retraite permet de supporter des conditions de travail difficiles, des moments de travail. Ça va changer. On va avoir une autre vie où on pourra faire ce qu'on veut Évidemment, à condition évidemment d'arriver en bonne santé au moment de la retraite. C'est une préoccupation qui concerne bien sûr ceux qui ont des métiers, qui ont exercé des métiers physiques et qui savent que l'espérance de vie est très inégale selon les professions. Donc la peur de voir réduire ce temps de retraite fait qu'il y a aussi un refus des départs précoces et un refus de l'abaissement de l'âge de la retraite. Les fortes réactions, on peut s'étonner des fortes réactions en France sur l'abaissement de l'âge de la retraite. Oui. Et en fait, parce que ça touche cet imaginaire de la retraite, qui aide à supporter les insatisfactions du présent. Et d'ailleurs, je crois qu'il est paru dans Le Monde hier ou aujourd'hui les résultats d'une enquête qui a été menée en collaboration avec l'Ipsos sur 6000 personnes et qui vient de montrer encore que la retraite fait partie des principales préoccupations des Français. Donc cette première partie de la retraite qui n'est pas encore la vieillesse et qui représente finalement un imaginaire de vie où on est plus libre et de vie à soi et pour soi, a contribué finalement à cette importance et à ce refus de changement que l'on trouve qui est très fort en France. Et l'anticipation de cette vie autogérée, elle agit finalement sur l'ensemble du déroulement de vie. Alors, je pense que je vais accélérer un peu. Voilà.
Et pour pouvoir accueillir des questions avant de vous laisser partir.
Bien sûr. Donc, cette période, la génération pivot est en correspondance avec la période de maturescence, puisque la génération pivot représente finalement le fait d'être situé à la fois avec en prise avec des parents, les parents toujours là, et des enfants et surtout des petits-enfants. L'importance, on a vu l'importance des grands-parents, et étant donné l'allongement de la vie, c'est surtout la relation entre la grand-parentalité et le fait d'être encore enfant qui intervient et ce qui donne à cette génération centrale une fonction importante de surcroît d'échange entre générations et suivantes et de rôle décisif dans les solidarités et dans la continuité familiale. En réalité, dans tous les travaux que l'on peut faire sur la famille, on constate que la famille se maintient, que les solidarités sont vivaces, mais cela tient principalement en grande partie à ce rôle de la génération pivot qui aide les parents, qui aide les enfants et qui crée le lien au-delà des séparations, au-delà des crises familiales. Et donc ce rôle de maintien de la cohésion familiale, de la continuité familiale, le rôle des grands-parents en cas de crise familiale qui les a mis au premier plan et qui a aussi transformé l'image et le rôle des grands-parents, fait que finalement c'est sur cette génération que repose principalement la transformation, la continuité, le maintien actuel des solidarités. Et alors, il y a évidemment, dans la génération pivot, il y a une différence homme-femme. Les hommes sont beaucoup plus axés vers les échanges financiers, économiques, et les femmes vers les échanges en temps. Et donc, je vais peut-être rapidement vous donner les résultats toujours de cette enquête européenne où on a vu le taux d'aide en fonction de la position dans la lignée. Alors, on voit, il y a parmi les 50 ans ceux qui appartiennent à une génération, ceux qui ont les plus âgés de deux générations, ceux qui sont les plus âgés d'une lignée de trois générations. Il y a les pivots qui sont entre les parents, les enfants et les petits-enfants, et ceux qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont que des parents. Donc c'est cinq catégories de positions générationnelles, et on a pu montrer que c'est la catégorie pivot qui apportait le plus d'aide, qui était au sein d'échanges plus importants dans les échanges donnés et aussi un peu dans les échanges reçus. Alors je passe rapidement, on retrouve la même chose pour l'aide financière, et on retrouve toujours ces cinq catégories, et on voit que c'est la génération pivot aussi qui contribue le plus. Alors c'est sur un échantillon général.
Je vous propose de nous en tenir là parce que vous nous avez déjà apporté suffisamment d'éléments pour la réflexion. Sur la génération pivot, vous avez eu l'occasion de nous dire ici même et de l'écrire bien sûr qu'elle ne peut assumer ce rôle que si par ailleurs l'État social, l'État providence est encore là. Voilà. Mais laissons de côté cet aspect des choses. Ce que je retiens, c'est que ce sont ces deux catégories, génération pivot, maturescence, que vous avez forgées. Il serait intéressant de voir avec Anne-Marie Guillemard tout à l'heure dans quelle mesure ça a percolé ou pas au niveau des politiques sociales, dans quelle mesure les pouvoirs publics ont intégré ces notions-là pour réorienter leur politique. Mais là, j'ai gardé en mémoire que vous deviez nous quitter dans quelques minutes. Et donc, voilà. Ah, parfait. Alors, prenons des premières questions et ensuite,
Je voulais, pour conclure...
Forcément, oui.
Et pour conclure et pour annoncer la présentation suivante sur la jeunesse et sur les adolescents, vous présentez ce petit chat.
Alors... Comme je crains que vous ne deviez partir pendant l'intervention, peut-être qu'on prend les questions de la salle d'ores et déjà. Et merci à Guillaume, qui n'a plus rien à dire, en fait, entre Éric Deschavannes, vous-même.
Je n'ai pas parlé du tout des adolescents.
Marie-Françoise Fuchs.
Oui, dans ces générations pivots, est-ce que vous ne considérez pas à l'heure actuelle l'amorce d'un changement? Moi, je vois autour de moi un certain nombre de grands-parents qui ont entre 55 et 70 ans, qui ne veulent plus jouer ce rôle de pivot, qui revient à l'enfant aîné de la famille. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement, moi, que je constate comme ça, Mais ce n'est pas du tout statistique, c'est une constatation. Est-ce que vous avez le sentiment que cette génération pivot que nous avons constituée à notre temps est en train de ne plus être complètement certaine d'être vraiment désireuse de ce rôle? C'est-à-dire qu'ils accueillent la grand-parentalité sans enthousiasme. Ce n'est pas général, hein, mais il y a quelques éléments, quelques personnes que je vois qui, contrairement à l'habitude qu'on avait de voir, se désintéressent du rôle grand-parental un peu et ne font plus la cohésion familiale, ne cherchent pas cette durée dans la relation. Je sais pas, vous avez ce sentiment ou pas du tout?
Alors, j'ai pas parler de sentiments, mais dans les statistiques on le voit pas encore. Hein. Dans les statistiques, on peut suivre dans l'enquête CHER, l'enquête qui européenne, qui sur les plus de 50 ans et qui suit, ou sur laquelle on a posé un certain nombre de questions sur la grand-parentalité, sur les soins aux petits enfants, on voit que c'est dans le longitudinal que c'est le type d'aide qui est le plus continu d'une vague à l'autre, d'une fois sur l'autre, alors que les aides financières sont plus occasionnelles, tandis que l'aide aux petits-enfants, c'est une des rares... Et l'aide à une mère malade aussi. Ce sont les deux rares aides que l'on voit d'une façon continue, qui se poursuivent de façon continue, d'une vague à l'autre. Ça, sur l'ensemble des pays européens. Donc, si vous voulez, ce que vous dites, je comprends, parce qu'il y a une demande de plus en plus forte... sur les grands-parents. Il y a une pression très forte qui s'exerce sur les grands-parents par les jeunes couples, par les familles qui ont de plus en plus besoin de compléments d'aide, même s'il y a des systèmes de garde qui font de plus en plus appel. Et l'aide qui est donnée est là, mais probablement ce que vous avez ressenti, ça correspond à une certaine réalité d'un surcroît de trop de demandes. Moi, je le vois aussi autour de moi. Un surcroît de demandes. Donc, il y a véritablement besoin d'un, comme le disait Sylvain, d'un accompagnement public et de davantage d'aide publique pour permettre à cette génération de pouvoir continuer son rôle.
Anne qui sort de son
rôle. Oui, simplement parce que je suis maman de 55 ans qui ont des enfants de 21 ans et de 26 ans. Donc, on pose la question, en effet, du syndrome Tanguy. Peut-être que vous avez entendu
le
parler.
Film, hein, c'est ça.
Voilà. Donc, est-ce que... moi, je trouve que... on parle d'une liberté. Vous parlez, en effet, le philosophe parle de liberté sartrienne, etc. Mais les jeunes n'ont jamais été aussi peu libres. Ils vivent sur leurs parents très longtemps. Ils sont dépendants de leurs parents financièrement très longtemps. Ils rentrent dans le monde du travail très longtemps. Alors, c'est voilà, c'est très étonnant, vivant ça de l'intérieur et voyant les... En effet, on fait plus appel peut-être aux grands-parents par le fait que les grands-parents subviennent aux besoins financiers. Mais il est vrai aussi que pour les classes d'âge dont je fais partie, ces enfants, quand est-ce qu'ils vont enfin grandir? Parce que le problème qui se pose, si vous voulez, c'est qu'ils veulent être indépendants, mais qu'ils ne peuvent pas l'être. Donc il y a un rapport psychologique aux adultes qui est très dur. Parce qu'ils disent qu'ils veulent se comporter comme des adultes et comme ils sont dépendants, en fait, de leurs parents et des autres adultes, ils n'arrivent pas à rompre les ponts. Et moi, j'aimerais plus être à leur place.
Anne, c'est une belle question qui fait aussi transition. Pardon, avec
la transition. Non, je dirais simplement qu'ils sont dépendants financièrement, mais ils sont indépendants dans leur vie. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout comme dans la génération précédente. Quand on était chez ses parents, on ne pouvait pas faire venir le petit copain, le copain, la copine. On ne pouvait pas se servir de la maison parentale comme d'un hôtel en donnant son linge et en faisant ce qu'on veut. Donc il y a la transformation des rapports entre générations qui sont beaucoup moins hiérarchiques, qui est beaucoup moins fait de beaucoup moins de contraintes et d'autorité, qui a aussi favorisé la cohabitation plus longtemps des
mais là c'est aussi peut-être un moyen justement pour l'État de se désolidariser. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes associations, des étudiants qui demandent en effet, là il va y avoir des élections bientôt, que les jeunes aient un salaire. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme étant des jeunes qui, en fait, continuent à être à l'université parce que, justement, ils ne pointent pas au chômage. Enfin,
il y a des mesures pour les moins de 25 ans. En France, c'est aberrant de ne pas donner d'aide aux moins de 25 ans, alors que ça n'existe pas dans les autres pays où c'est individualisé. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment individualisé les prestations en France aussi. Voilà. On crée ce phénomène. On compte beaucoup. C'est dans cette notion, finalement, de subsidiarité qui reste encore dans le droit français.
Oui, oui.
Et on compte beaucoup sur la famille. famille, et ça, c'est un problème, et je suis d'accord avec vous. Mmh. Et s'ils avaient davantage de possibilités de recevoir des prestations, ils seraient plus individualisés, plus, ils pourraient s'extraire plus facilement de la famille, comme ça s'est fait avec les plus âgés.
D'accord. Merci, madame.
Je propose, sauf s'il y a une autre interrogation, mais vous restez avec moi.
Je surveille le taxi.
Voilà, très bien. Et vous n'hésitez pas à intervenir si vous aviez un point d'interrogation. Mais alors justement, Guillaume Maché, est-ce que les adolescents dont nous parle Anne Bonnefoy, il y a manifestement beaucoup de vécu dans son témoignage, est-ce que ce sont les adolescents que vous... Ah ben voilà, il part. Ah ben non. Ah oui, oui, pardon. Est-ce qu'on peut faire un jeu de chaises musicales? Parce qu'effectivement...
J'ai qu'une seule diapositive à projeter, vous n'ennuyez pas.
Oui, très bien. Alors, Claudine, paraît-il qu'il vaudrait mieux que vous regagniez l'assistance pour pouvoir... D'accord, très bien. Alors, du coup, on peut... Qu'est-ce que vous faites, Guillaume? Qu'est-ce que tu fais? On va s'autoriser le tutoiement. Il y a déjà un long compagnonnage de route. Voilà. Merci, Claudine, Nathia Donfou.
En fait, ça doit être...
Chéché, comme on dit en Chine. oui, peut-être question pour lancer ton exposé. Est-ce que les adolescents dont on a parlé sont ceux que tu as observés à travers notamment ton travail de thèse? Et puis, on le dit au passage, de toute cette démarche dans laquelle tu as été engagé auprès des adolescents de Vitry, du département de Val-de-Marne, avec Edith Ergon, hein, parce que c'était dans le cadre d'une démarche de prospective du présent. On en dira sans doute quelques mots avec elle. Je précise, et pour expliquer le trouble que tu éprouvais suite à l'intervention d'Éric Deschavannes, que tu es donc sociologue, tu fais ta thèse avec François de Saint-Gly, et justement où tu appréhendes les choses dans une en posant l'existence comment, dans une perspective individualiste, hein, de la société, donc d'où ton sentiment que tout avait été dit, sauf que non, pas tout à fait, parce que tu as beaucoup travaillé sur la notion d'adolescent, et ce qui me vaut d'ailleurs peut-être un rectificatif dans le programme, nous indiquons des adolescents aux adolescents. La logique aurait voulu plutôt, oui, de parler des adolescents, puisque ça caractérise, ben, j'en dis pas plus, je te laisse le soin de nous dire ce que recouvre ce néologisme.
Oui, merci, merci Sylvain, merci Anne pour votre invitation. Je pense que la jeunesse, pour ceux qui se posent encore la question, on la reconnaît au fait qu'elle utilise deux ordinateurs en même temps. C'est tout de suite très clivant. Comme tu le rappelais, je me place exactement dans le cadre théorique qu'a posé Éric Deschavannes, c'est-à-dire l'idée que les sociétés modernes sont caractérisées par une individualisation forte. Alors je vais peut-être revenir... Plus précisément, non, ça ne serait pas rendre hommage à l'intervention d'Éric Deschavannes, mais différemment sur ce que j'entends par individualisation. Alors, on est d'accord sur le fait que c'est effectivement une recomposition du lien social, tel que les liens électifs, les liens choisis, sont plus prégnants que les liens hérités, des liens statutaires, qui renvoient à des rôles et des places des personnes dans la société. Je crois, pour faire le lien avec la dernière question, celle d'Anne, et la réponse qui s'en est suivie, que pour appréhender l'individualisation, on a besoin de deux concepts, de deux notions, qu'on a tendance à confondre, notamment les pouvoirs publics, celle d'autonomie et celle d'indépendance. Quand, effectivement, il y a... réclamation, revendication d'un salaire étudiant, on l'appelle souvent allocation autonomie au mouvement des jeunes socialistes ou à l'UNEF ou dans d'autres organisations de cette mouvance. Quand les personnes plus âgées arrivent à l'âge de qu'on appelle la dépendance, on leur propose une allocation personnalisée d'autonomie. Donc là, il y a vraiment une confusion, à mon avis, notionnelle entre... autonomie et indépendance, qui est dommageable. Alors, la distinction vaut le coup justement pour expliquer que on peut vivre chez ses parents tout en ayant une forme de liberté. L'autonomie, à mon sens, enfin à mon sens, c'est prétentieux, mais la manière dont je vais l'employer plus exactement, c'est le fait d'avoir pouvoir sur soi, de définir son monde. Étymologiquement, pardon, c'est le fait de définir ses propres règles, ses propres lois. Donc le fait d'avoir un gouvernement propre, en quelque sorte. Ça passe pour les adolescents particulièrement, par le fait d'avoir des droits, le fait de consentir à la règle, y compris ce qui veut dire de la négociation, de la désobéissance, etc. Et puis le fait de s'affirmer comme une personnalité singulière. Cette autonomie, je la distingue, donc le gouvernement propre, je le distingue de l'indépendance, c'est-à-dire le fait d'avoir des ressources propres. Et donc là, j'entends par ressources le fait d'avoir des ressources que j'appelle personnelles, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir des compétences, et puis ressources matérielles, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'argent, un logement à soi, etc. Et aussi, je pense, une autre dimension importante, des ressources relationnelles, mais je m'attarderai peut-être moins sur ce point ce soir. Alors effectivement, et je crois que c'est absolument indispensable pour définir les âges de la vie, en tout cas les premiers âges de la vie, c'est la succession d'articulations entre autonomie et indépendance qui, à mon avis, justifie la classification enfance, adolescence, j'y reviendrai dans un moment, adolescence, éventuellement jeunesse et passage à l'âge adulte. Pour le dire vite, avant de revenir sur chacune de ces périodes, on peut dire que l'enfance, c'est à la fois l'absence et d'autonomie et d'indépendance. Puis ensuite, on va cheminer vers l'autonomie, mais toujours en étant dans une situation de très grande dépendance. Et ensuite, on va acquérir à la fois autonomie et indépendance. Alors, un tableau qui, à mon avis, caractérise très bien l'individualisation dans la famille dont parlait Éric de Chavannes. C'est la transformation des qualités souhaitées par les parents pour leurs enfants. Bon, l'amplitude des scores est considérable. Hein, pour des enquêtes sociologiques, généralement, quand il y a 10 points, on est très content. Là, on voit qu'il y a des variations de 50 points, parfois de 40 points. Et notamment, vous voyez que l'indépendance... Alors là, effectivement, dans cette enquête-là, il n'y a pas cette distinction que je viens d'évoquer entre indépendance et autonomie, mais enfin, les valeurs associées à l'individu ont cru dans des proportions absolument considérables. Et donc ça a évidemment des effets sur la manière dont les individus en formation grandissent. Alors, excusez-moi. Alors, l'adolescence, c'est donc une notion qu'a utilisée François de Saint-Gly, c'est le titre d'un de ses ouvrages, pour qualifier ce premier mouvement de prise d'autonomie dans la dépendance. C'est-à-dire un mouvement dans lequel l'individu n'est pas encore suffisamment solide pour affirmer son individualité d'emblée, c'est-à-dire pour marquer la distance à son appartenance familiale, à ses parents. Et donc, il va recourir à la mobilisation d'un collectif, en l'occurrence d'un collectif générationnel, c'est-à-dire le fait de faire partie d'une génération, pour signifier cette prise de distance à ses parents. Ça ne veut pas dire le rejet de son identité d'enfant, mais ça veut dire qu'il n'est plus que cela. Et c'est le début de l'individualisme. C'est pouvoir choisir son identité, donc quelque part avoir au moins deux registres identitaires pour pouvoir jongler. Donc, je le signifie avec tout un tas d'attributs. Alors souvent des attributs qui sont proposés par le marché, ce qui ensuite interpelle les parents, les pouvoirs publics, etc. Mais enfin bon, c'est aussi au pouvoir public d'être plus intelligent que le marché à certains égards. Et ils offrent effectivement tout un tas de... que ce soit à travers les vêtements, que ce soit à travers la musique, dont l'obsolescence est formidable. Moi, ça fait 5 ans. Bon, ça fait trop longtemps, c'est vrai que je suis en thèse, mais quand même, ça fait déjà 2 ou 3 cycles de musique que je vois passer pour une même période de la vie, c'est-à-dire celle des collégiens. Et encore, il faut être plus subtil que ça, parce que collégiens regroupent à la fois des adolescents et des adolescents. On le verra. Donc vêtements, musique, accessoires divers, produits culturels, etc. Et tout cela, voilà, est mobilisé, pas toujours totalement, c'est-à-dire que les adolescents n'emploient pas toujours toute la panoplie générationnelle, mais ils piochent certains éléments pour dire à leurs parents « je suis ton enfant, mais je suis aussi autre chose, j'ai une autre appartenance ». Bon, et puis ce travail-là ne se fait pas forcément sans heurts, puisque bon, mais, même si on est à 75,8% en 78 d'acceptation, de promotion de l'indépendance comme valeur éducative, mais concrètement, au quotidien, c'est quand même des ajustements qui sont parfois un peu compliqués. Et donc, ça prend la forme éventuellement de négociations entre les enfants et leurs parents. Alors là, je vous donne quelques exemples, puisque comme j'écoute beaucoup d'ados, je profite pour partager leurs paroles. Loïc, qui est en 5e dans un collège privé, parle de ses sorties en famille. Et il me raconte la dernière. Donc il me dit, on était partis se balader en forêt, on a été visiter un grand parc en dehors de la ville avec des copains. Donc je lui demande, des copains à toi ou à tes parents? Il me dit, à mes parents. Donc je lui demande, t'aimes bien ce genre de balade en famille? Il me dit, ouais, ça va, j'aime bien. Bon, c'est les copains que j'aime pas trop. Parce qu'avec eux, comme ils mangent bio, c'est pas que j'aime pas bio. Bon, une fois, on est allé à Aqua Boulevard, on a dû aller jusqu'à Opéra pour aller manger bio. La deuxième fois, ils nous ont fait manger des tartines parce qu'ils croyaient qu'il y avait autre chose. Mais c'était des tartines au jambon, au gruyère, c'était pas vraiment super. Donc, je lui dis, mais donc c'est le problème de ces moments familiaux, c'est la nourriture bio pour toi, il me dit. Non, j'ai jamais été contre, mais faire 40 km pour bouffer une tartine, c'est un peu dur. Surtout qu'à Coin Boulevard, il y a plein de restos. Il dit, ouais, toi, t'aurais été plutôt au McDo comme, ou quelque chose comme ça. Il me dit, oui, voilà, ou Hippopotamus, à la limite. Donc, on voit bien que pour Loïc, il ne s'agit pas de rejeter en bloc le moment familial selon un registre un peu commun de la crise d'adolescence et manichéen, de... On peut être bien en famille, mais en même temps, j'existe à titre personnel et donc j'aimerais que cette existence soit reconnue par mes parents et que donc je puisse aussi avoir mon mot à dire, notamment sur ce qu'on va manger. Alors Aurélien, lui, il est dans la négociation dure, pourtant il est en seulement 6e, collège public, il a 2 parents médecins. Et donc je lui parle de son argent de poche. Et je lui demande donc combien il reçoit. Il me dit, bah, ça dépend des mois, en fait, c'est plutôt un système. Quand j'ai des bonnes notes, ça monte, et quand j'ai des mauvaises notes et que je ne me comporte pas bien, et ben, ça redescend. Donc, je lui demande de me détailler un peu. Il me dit, bon, par exemple, si j'ai 17-18, c'est plus 50 centimes. Bon, sachant que tous les mois, je commence à 5 euros. Donc 17-18 plus 50 centimes, 18 plus 1 euro. Après, moins de la moyenne, ça fait moins 50 centimes. Et de 0 à 3, ça fait moins 1 euro. Après, il y a les mots dans le carnet. Donc les mots dans le carnet, c'est moins 50 centimes. Les heures de colle, moins 2 euros. Et alors, il m'explique comme ça. Quand il y a une dent qui tombe, c'est plus 2 euros. Mais là, j'en ai plus beaucoup. Alors moi, les ressources s'appauvrissent. Bon, il continue comme ça, mais très longtemps. Tout, il fait du sport. Tout est tarifé. Il y a un barème, etc. Mais alors, ce qui est intéressant, non, ouais, c'est vraiment très long, je ne vais pas vous lire tout, sinon je vais déborder, mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que c'est lui qui a fait cette suggestion de barème à ses parents. C'est-à-dire que lui voulait de l'argent de poche, ses parents le lui ont refusé, et donc il a allé chercher ce qu'il a compris qui était important pour eux, c'est-à-dire notamment bon résultat scolaire, mais aussi après il y a des questions d'obéissance, de participation aux tâches ménagères. Il a à peu près cerné ce qu'on lui demandait. Et il a renversé le truc à son avantage pour négocier ça et faire jouer effectivement un petit peu son autonomie.
Je vais me permettre de l'instaurer ce soir. D'ailleurs, une minute de débord, c'est 10 euros de pénalité.
Alors, ça, 6e, 5e, c'est vraiment l'âge de, effectivement, de la naissance, c'est-à-dire d'une première prise d'autonomie, mais vraiment limitée, et encore une fois, qui s'installe dans un cadre générationnel. Hein. Avant de dire « je », on va déjà dire « nous », mais un « nous » qui n'est plus le « nous » familial, mais un « nous », le « nous » des copains. Hein. Ça, les adolescents, ou ce qu'on peut appeler aussi pré-adolescents, en fait, François de Saint-Guy a utilisé « adolescents », parce qu'il considère que le problème de ces adolescents, c'est pas de rentrer dans l'adolescence, mais c'est d'engager ce chemin d'individualisation. Donc, en fait, il insiste sur le fait qu'il y ait naissance de quelque chose, plus que sur le fait qu'il y ait préparation de quelque chose, vous voyez. Bon, mais de fait, on parle bien de la même période de la vie, d'accord, préadolescence, adolescence. Bon, ces préados, ils ont tout à fait conscience de leur statut, qui n'est ni celui d'enfant, ça c'est très important pour eux, parce qu'à la fois, ils doivent prendre de la distance par rapport à leur identité d'enfant en tant que fils d'eux, fille d'eux, mais aussi enfant en tant que petit. Et en même temps, ils savent qu'ils ne sont pas encore adolescents. Donc, par exemple, un des entretiens de François, c'est... Si je le retrouve. Je suis ado. Je ne suis pas mûr. Je ne suis pas idiote à ce point-là, mais je suis normal. Mais je ne me considère pas comme une adolescente parce que je ne fais pas encore ce que je veux. Enfin, l'adolescente ne fait pas tout ce qu'elle veut non plus. Ça dépend comment les parents ils éduquent leurs enfants. Par exemple, ceux de ma classe, les racailles, se croient déjà pour quelqu'un de majeur, quelqu'un qui a tous les droits, quelqu'un qui pourrait faire ce qu'il veut, quoi. Bon. Là, on voit bien dans ce témoignage, même s'il est court, qu'elle a une conscience assez aiguë de quelle est sa place. C'est-à-dire qu'elle n'en demande pas plus que ce qu'elle pense correspondre à une revendication légitime de son âge. Elle aimerait être normale. Elle affiche qu'elle est normale. C'est-à-dire, j'ai le droit à certaines marges de liberté, mais en même temps, je ne fais pas ce que je veux, je ne suis pas majeur. Bon. Et puis après, l'adolescence, étape suivante, alors, c'est un peu bête parce que c'est un processus, donc c'est bête d'essayer de la renvoyer à un âge spécifique, mais en même temps, même si les rites de passage, effectivement, sont dévalués, l'institution scolaire joue énormément dans le fait d'avoir conscience des franchissements. Et de ce fait, le passage au collège amorce probablement ce phénomène de conscience d'être un pré-ado. Et ensuite, il y a un deuxième passage important au collège, c'est celui en quatrième. On fait des choix de langue, il y a des options, etc. On commence à rentrer dans le contrôle continu pour le brevet, même si ça a été remis en cause récemment. Et donc, on passe encore une étape, on devient adolescent. Alors, je demande rapidement, il me reste combien de temps ?
Cinq minutes.
Je demande à Patrick, est-ce qu'il se sent adolescent ? Est-ce qu'il a l'impression d'être adolescent ? Et il me dit oui. Alors pourquoi ? C'est quelqu'un de plus mature qu'avant, qui sait s'amuser, qui a ses limites, qui conçoit ce qui est bien et pas bien. Je lui dis ses limites, parce qu'il m'avait parlé pas mal de boissons avant, alors je lui dis ses limites, c'est genre pas boire trop. Il dit oui, c'est ça. Et donc je lui dis, ça fait combien de temps que t'es adolescent ? Il me dit, depuis l'année dernière. Donc il est en troisième, et il me le chiffre à la quatrième. Non mais c'est drôle, donc, hein, comme ils arrivent à scander de manière assez précise cette maturation, ce processus. Et donc je lui demande, qu'est-ce qui a changé ? Il me dit, je suis plus mature qu'avant, voilà. Et donc je lui demande, tu penses être adolescent jusqu'à quel âge ? Il me dit, on va dire jusqu'à la vingtaine, je pense. À 18 ans, on est majeur, mais on n'est pas encore adulte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte ? Il me dit, quand on arrive à grandir, à avoir un travail, quand on commence à trouver des trucs, un appartement, voilà. Donc en fait, il dit de manière extrêmement profane ce que disent les sociologues, comme des gens comme Olivier Galland, par exemple, qui est spécialiste des questions de jeunesse, c'est-à-dire le fait qu'on est adolescent et qu'on franchit adolescent, puis jeune, et qu'on franchit les étapes vers l'âge adulte en décohabitant de chez ses parents, en ayant un logement propre et un premier emploi stable. Deuxième témoignage, juste encore une fois sur Patrick, l'importance du concept d'autonomie, c'est-à-dire je fais ce que je veux, mais ce n'est pas une liberté totale et sans limite. Je me fixe des règles, y compris des règles dans la limitation de mes actions. Freddy, troisième, collège public aussi, mère assistante sociale, père artiste peintre. Qu'est-ce qui fait qu'on est adolescent d'après toi ? Mais justement une certaine autonomie, un pouvoir, une liberté de décrocher des parents. Et par contre, des personnes comme... je connais des personnes qui traînent avec moi, ils sortent pas le dimanche. Bon, ils sont adolescents, mais pas vraiment ce que je considère dans l'adolescence. Sinon, la liberté, être toujours un peu ensemble, se voir de temps en temps, écouter de la musique. Donc on voit qu'il y a ces deux dimensions, à la fois la valorisation de l'autonomie, et puis le fait de baigner dans un bain culturel générationnel, le fait d'être ensemble, dans l'entre-soi, d'avoir les mêmes goûts musicaux, de partager, etc.
Conclusion.
En conclusion...
Pour amorcer...
Oui, pour amorcer justement peut-être le débat. Alors, donc, je dirais, à donner sens, ce premier pas dans l'individualisation, je commence à prendre mon autonomie, une autonomie, encore une fois, adossée à une appartenance générationnelle. Puis ensuite, avec l'adolescence, je vais de plus en plus avancer, dire de plus en plus « je », mais toujours dans des situations de grande dépendance, même si je peux expérimenter ou là des formes d'indépendance relative, comme le fait d'avoir un peu d'argent à moi, comme le fait d'avoir une chambre à moi, c'est-à-dire une chambre que je peux fermer, ou dans laquelle on ne pénètre pas, de fixer des règles, etc. Donc j'ai une petite forme d'indépendance, mais une indépendance très relative par rapport au fait d'avoir un revenu qui ne dépendait pas des parents, ou le fait d'avoir un logement à soi, bien entendu. Bon. Adolescence, jeunesse, je vais accéder à ces formes, je suis a priori pleinement autonome, y compris légalement, la majorité me donne le droit de tout un tas de choses, etc. Et pourtant, je n'ai pas encore forcément décohabité chez mes parents et accédé à un métier. Bon. La thèse de l'allongement de la jeunesse qui a été évoquée ce soir, elle vient du fait que, entre autres, il y ait déconnexion des différents seuils de franchissement vers l'âge adulte. C'est-à-dire que là où il y avait une relative coïncidence entre le fait de décohabiter, de s'installer en couple, d'avoir un métier, une profession, un emploi, c'est ça que je voulais dire, un emploi, et bien là on voit que ces seuils sont relativement déconnectés et qu'éventuellement, effectivement, ils peuvent du coup amener jusqu'à la trentaine ou des choses comme ça. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que ces seuils sont aussi réversibles. Et je ne sais plus qui, je crois que c'est vous aussi, Eric,
et
Anne-Marie aussi. Ces seuils sont réversibles, que ce soit dans le domaine de la vie conjugale, que ce soit dans le logement. On peut éventuellement décohabiter à un moment donné et puis une période de chômage ou quelque chose, un incident de la vie peut amener à revivre, je ne sais pas, etc. Donc je pense qu'en fait... Une des périodes qui est la plus troublée aujourd'hui, et pourtant celle dont on parle le plus, c'est la jeunesse. Elle est très difficile, à mon avis, à définir, d'autant plus que se superpose l'idée qu'a évoquée Éric de Chavannes, que la jeunesse pourrait être autre chose qu'un âge, mais plutôt, je dirais, une qualité, une disposition, c'est-à-dire qui renverrait un modèle un peu énergétique, de quelqu'un qui se bougerait, qui serait encore dans la vie, qui serait encore dans le champ des possibles. Et donc, du coup, pas forcément lié à un âge de la vie. Voilà, c'est pour ouvrir la discussion. Merci.
Comme disent... Comme disent les adolescents ou adolescents, c'est trop passionnant. Alors, j'aurais une question, c'est en ayant en tête le propos. Oh, merci de cette nouvelle illustration de ce que peuvent faire les chercheurs en sciences sociales pour nous aider à y voir plus clair en forgeant de nouvelles lunettes, de nouvelles catégories. Donc, on comprend mieux le sens de cette notion d'adolescence. Je repensais à l'exposé d'Hervé Lebras qui nous avait invité à prendre en compte aussi la traduction spatiale et puis les variations suivant les milieux sociaux d'appartenance. Et du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent l'adolescence, qui permettent de vivre plus pleinement l'adolescence ici, dans tel ou tel milieu social que dans d'autres. Mais ça, je garde peut-être la question sous le coude pour privilégier, avant d'aller vers la pause et d'entendre Anne-Marie Guillemard, dont le nom a été régulièrement cité, et vous comprendrez mieux pourquoi tout à l'heure.
Alors, vas-y.
Un adolescent. Allez, hop.
Oui, juste une question. Je suis un peu étonné qu'à aucun moment, notamment au niveau d'ado-naissant ou d'adolescent, vous n'évoquiez les changements physiologiques qui s'opèrent chez l'individu à ce moment-là. C'est ma première question. La deuxième, c'est un peu pour répondre à Anne et à ses adolescents prolongés qui squattent toujours chez elle. Si elle habitait pas Poitiers et donc ils ne feraient pas leurs études sur place, les problèmes ne seraient pas tout à fait identiques.
Ben, ça rejoint ma question. Guillaume ?
Oui.
Sauf si Anne, ça allait dans le même sens. Non,
pas du tout. Je suis.
Très bien. Sur le premier point, c'est pour faire bonne mesure avec le discours des psys, qu'on déteste, évidemment. Non, plus sérieusement, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas forcément été dite aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas, 17h, 22h, c'est à la fois le jour et la nuit, et qui pourtant est, à mon avis, un présupposé du fait qu'on se pose la question des âges, c'est que tout ça est très social. Et que la puberté peut signifier le passage à l'âge adulte dans certaines sociétés et puis pas dans d'autres. Et donc moi, ce qui m'apparaît, c'est que dans nos sociétés, bon, en tout cas en France, je pense qu'on pourrait étendre un certain nombre de sociétés occidentales, la puberté intervient pendant l'adolescence, y compris elle peut être mobilisée, si je peux dire, par les adolescents eux-mêmes comme une manifestation du fait qu'ils grandissent. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'ils basculent, y compris là, vous voyez, les 6e, 5e que j'ai rencontrés, la plupart ne sont pas pubères. Et pourtant, ils sont déjà dans des revendications d'autonomie relative, encore une fois, mais quand même, pas équivoque. Donc voilà, c'est pendant, mais ça ne définit pas, à mon sens.
Hervé Lebras, le micro. Oui, le micro.
Il y a un historien américain, Edward Shorter, a fait une étude de l'âge à la ménarchie, aux premières règles, et il s'est servi de témoignages notamment de médecins du XVIIIe siècle, et il y a quand même une différence énorme, c'est-à-dire les témoignages qu'il a sur les médecins du XVIIIe siècle, c'est entre 17 ans et 18 ans, les premières règles, et maintenant c'est autour de 11 ans. Hein. Donc je pense que ça a quand même eu une influence... sur la répartition des âges. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se produit au milieu de la jeunesse.
Oui, vous pouvez.
Après vous faire parler.
Hervé Lebras, justement, sur mon interrogation, est-ce que vous la reprendriez à votre compte et seriez en mesure d'y répondre sur l'intérêt qu'il y aurait à avoir les variations de cette adolescence suivant des variables comme...
Oui, je pense que ce serait intéressant. Mm-hmm. C'est peut-être que, j'y pensais quand vous parliez. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être plutôt internationalement, parce que, par exemple, l'Angleterre a toujours été très, très différente de nous du point de vue de la jeunesse. C'est les life cycle servants et choses comme ça. Et encore maintenant, les jeunes Anglais quittent beaucoup plus facilement. Chez eux, l'idée pour un jeune Anglais, par exemple, de faire ses études et les Scandinaves, qui étaient aussi dans le même life cycle, et l'idée de faire ses études dans la ville où résident les parents est totalement absente chez les Anglais, alors qu'en France, j'ai fait récemment une conférence à Saint-Brieuc et on m'a présenté des doléances, on m'a dit il n'y a pas de second cycle à l'université de Saint-Brieuc, nos enfants sont obligés d'aller à Rennes.
Ajouter un mot, simplement pour répondre à votre... Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Cécile Van de Velde, Devenir adulte, qui fait une comparaison internationale sur les modèles, justement. Moi, je voulais juste faire une petite remarque, alors qui va dans le sens contraire de celui d'Hervé Lebras, c'est que, justement, si on fait abstraction de la question de la physiologie, qui a sans doute un rôle très important à jouer, effectivement, on peut considérer que le moment de l'adolescence, de l'entrée dans l'adolescence, c'est le moment de l'émergence à l'autonomie. Je dirais peut-être plutôt davantage émergence à la subjectivité. De ce point de vue-là, moi, ce qui m'a frappé dans le livre sur l'adolescence, c'est plutôt la dimension de l'autoréflexion. Est-ce que vous avez, si je puis dire, est-ce que vous êtes efforcé de remonter, alors pour le coup, en faisant abstraction justement de toute cette cette question de la frontière entre enfance et adolescence liée à la puberté, etc., remonter plus avant dans l'enfance, si je puis dire, pour voir si on voyait apparaître, ou quand pouvait-on avoir apparaître, cette émergence de l'autoréflexion, c'est-à-dire cette capacité, c'est ça que j'ai trouvé très frappant, justement, de pouvoir utiliser son expérience, y compris son expérience de la vie en société, donc à travers l'école, pour, en quelque sorte, apercevoir de manière très aiguë, en quelque sorte, l'évolution de sa propre personnalité, son degré de maturation, de se situer dans le cycle de vie, etc. Ce qui me paraît quand même assez... j'ai l'impression que c'est une expérience assez moderne, mais...
On va finir par découvrir des bébés nés le sang.
Ouais. En même temps.
J'étais
très sensible à votre différenciation entre la dépendance et la perte d'autonomie que nous défendons pied et poing chez les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on peut être dépendant physiquement et avoir gardé une capacité d'autonomie, de décision pour soi-même. Et malheureusement, dans le langage courant, on assimile les deux. Je suis très heureuse de vous entendre bien différencier la chose pour les adolescents et la jeunesse aussi. Merci.
Un mot, une réaction, et ensuite la pause pour entendre Anne-Marie Guillemard. Et puis vous-même, d'ailleurs.
Alors, j'ai pu constater que ce niveau de réflexivité, on peut l'appeler comme ça, croît avec l'âge. Alors déjà, entre les 6e, 5e, les 4e, 3e, et puis j'ai commencé à enquêter au lycée aussi. Du coup, en fait, au lycée, c'était tellement plus fort que j'ai abandonné cette population-là pour me concentrer sur des individus qui se ressemblaient un peu. Et je ne suis pas allé, par contre, dans l'autre sens, parce que c'est vrai que mon objet de thèse, c'était vraiment les adolescents, et que, bon, déjà, c'est très difficile. Je dois dire, c'est très difficile d'enquêter auprès des mineurs. Et plus on descend, plus c'est difficile. Et puis, bon, d'autre part, effectivement, il fallait que je circonscrive mon enquête, mais je serais très intéressé par la suite de pouvoir continuer mes travaux auprès d'une population plus jeune, parce que on constate bien qu'il y a un déplacement, effectivement, non seulement physiologique, mais aussi...
C'est intéressant dans les deux sens parce que
je trouve que ce serait peut-être un concept plus intéressant que celui d'autonomie, parce que évoluer dans l'autonomie, la capacité d'autonomie, on va mesurer la quantité de temps de loisir passé en dehors de la famille ou la quantité de biture, etc. Mais je veux dire, on ne va pas aller très très loin dans l'idée d'une progression de l'autonomie de l'enfant, de l'enfance jusqu'à la fin de la jeunesse. Alors que si on essaie de mesurer cette réflexivité, ce degré de réflexivité, ce serait peut-être plus intéressant. Je sais pas.
Alors j'ai été peut-être trop rapide, et puis peut-être que je fais fausse route aussi par ailleurs. Mais c'est vrai que pour moi, l'autonomie était est pluridimensionnelle, et que... une des dimensions, c'était aussi le fait de pouvoir parler en propre, donc quelque part aussi effectivement de faire cet effort réflexif. C'est tout ce qui est pour moi anticonformisme, dans le sens de gens comme Sandra Laugier, etc. Vous voyez, alors après, du coup, à force de mettre trop de choses dans l'autonomie, est-ce que c'est encore un sens d'utiliser le terme autonomie? Ça, je ne sais pas, on peut en discuter, c'est peut-être plus une question... plus spécialiste, mais voilà. Et juste pour dire un dernier mot de la question sur laquelle m'interpellait Sylvain, les adolescents, c'est une comparaison d'adolescents de milieux populaires et de milieux cadres. Donc là, effectivement, on voit une variation, notamment des modes d'éducation de ces deux familles. Et mon enquête à moi porte sur la distinction de cette prise de cette individualisation selon que les enfants vivent dans une famille... On peut appeler classique, je l'appelle autrement, monoparental ou recomposé. Mmh. Donc là aussi, qui introduit un autre type de contexte d'évolution. Et oui, François de Singly trouve de la variation sociale. Mmh. Et oui, je trouve de la variation familiale. Mmh.
Merci beaucoup. Tu restes avec nous, donc on pourra prolonger. Je fais le vœu qu'au prétexte que tu parles d'adolescence, tu ne deviennes pas un thésard naissant. Hein, on attend impatiemment... ta thèse, hein, qui semble-t-il tarde. Hein, voilà. Merci. Et à d'ici un petit quart d'heure, on mange sous le...
Non.
Le...
Alors, 20 minutes.
20 minutes.
On a dit 20. Hein.
Bon, allez, 20.
On avait
20.
Dit 20. Donc, il y a des sandwichs à votre... pour nos auditeurs. Je vous en prie, ne partez pas. On est peu nombreux. On est bien ensemble, là. Hein. à très très bonnes interventions. Donc restez avec nous.